お兄さん、悪いこと言わないから、それ消しなさい。
嫌だね。これアップすれば1万、いや、ひょっとして100万再生いくんじゃないか。やった、ついに来たぞ、筒井くんチャンネルブレイクの時。
俺からも言うぞ、お前それを消せ。
嫌だって言ってんだろ。なんだお前ら、僕が妬ましいんだろ。ちょうどいいや、このヤクザを怒らせて宙吊りにされてみたの次回作は、逆ギレしてきたヤクザ約2人を返り討ちにしてみただ。
我慢の限界だ。これからもみっちりお灸を据えて。
Salut YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans une vidéo un peu différente des formats qu'il y a habituellement sur la chaîne. C'est pas un hebdo, c'est pas des découvertes de jeux de société. C'est plus un format un peu talk où je vais vous parler de 15 personnes, 15 producteurs ou productrices de contenu dans le monde du jeu de société que je juge intéressant à vous partager et sur lesquels vous devriez peut-être jeter un œil. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, sans vouloir donner de leçons ou quoi, hein, l'idée est pas là, c'est souvent, alors soit dans les hebdos, mais notamment chez ProxyJeux, qu'on se plaint un peu d'une forme d'homogénéisation de la production de contenu autour du jeu de société, de la part des médias de jeux de société, où y a beaucoup de choses qui tournent autour des reviews, qui est une grosse influence, très très influencée par les reviews anglais, c'est pour ça que j'utilise le terme anglophone, que ce soit par exemple par Dice Tower, et donc souvent ça va être, on va trouver beaucoup de choses qui vont avoir un côté un peu de test produit, avec d'abord une présentation des règles, parfois un peu longuette, et qui ne porte rien sur les sentiments de jeu, et puis après un côté un peu côté test produit avec les règles sont bien écrites, le matériel est de telle qualité et le prix c'est ça, est-ce que vous en avez pour votre argent, etc., sans vraiment s'attarder sur ce que moi je recherche en termes de proposer ce qu'on ressent en tant que jeu et comment est-ce qu'on le ressent, que ce soit de l'analyse, que ce soit de la cohérence thématique ou quoi, et ça manque un petit peu. Alors pas que l'idée, je l'ai dit, hein, c'est pas de donner des leçons, hein, je suis pas là pour dire que moi je fais mieux que les autres et que ce que je fais ça peut s'apparenter à de la review quand je parle des jeux de société que j'ai découverts, les actus jeux de société que je fais dans les deux jeux de société, je suis pas non plus le seul à le faire du tout, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, en termes de consommateur pur, je regrette un peu ce manque de diversité qu'il peut y avoir dans la proposition de contenu, et que ce soit anglophone ou francophone, donc là, je vais vous parler de 15 personnes qui proposent des choses que je juge un peu différentes, un peu intéressantes et qui, moi, m'intéressent. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire que les gens qui font de la review ou autre chose font du mauvais travail et que c'est nul. Au contraire, hein, moi, c'est quelque chose... Alors, la review un peu moins, mais par exemple, il y a aussi beaucoup de la présentation de règles ou du playthrough, donc des parties filmées. C'est quelque chose que moi je consomme aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce que le contenu plus critique, c'est quelque chose que je vais plutôt voir quand je connais déjà le jeu, alors que par exemple la présentation de jeu, par les règles, hein, purement, hein, cette fois sans aucun avis, ça me donne souvent une bonne idée de est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va m'intéresser, est-ce que j'ai envie d'essayer, de quoi ça va parler, quelle dynamique va y avoir un peu dans ce jeu, est-ce que ça va être pour moi. Donc. Encore une fois, il y a des gens qui font ça très bien, que ce soit en termes de qualité formelle ou de rythme et tout. C'est du très bon travail, là n'est pas la question, hein, et c'est du travail que moi je consulte et que je consomme également. L'idée est pas là, l'idée c'est plus, là j'ai envie d'un peu ouvrir les possibilités, et ce que je regrette, c'est pas que ça existe, c'est que il y a un peu que ça. Ça a beau être bien fait, souvent ça manque un peu d'identité, ça manque un peu d'âme, il y a aussi un peu un manque dans le milieu francophone de prise de position franche et assumée. Il y a un peu de complaisance et tout aussi, très très souvent. Alors ça, c'est une autre question, hein, évidemment, la relation aux éditeurs, c'est tout autre chose. Mais donc, voilà. On va tout de suite aussi poser quelques bases, c'est que on va parler surtout de choses que je vois sur YouTube et ou à l'écrit, que ce soit en blog ou quoi, parce que par exemple tout ce qui est Instagram et TikTok, je ne consomme pas du tout, donc je pourrais pas vous dire s'il y a du contenu intéressant et original qui est proposé là-bas. Alors Instagram, ça passe beaucoup par le visuel et tout, même s'il y a aussi les stories, etc. Sur TikTok, je sais que c'est un média que je n'utilise pas du tout, mais je sais que c'est un lieu où la créativité peut s'exprimer à plein plein de niveaux. Peut-être que c'est aussi le cas dans le jeu de société, je l'ignore. Également, un truc que je vais aussi exclure, c'est, je vous ai dit, je parlerai de 15 personnes francophones. Voilà, pas de truc anglophone, quand bien même il y a un peu plus de diversité dans la proposition du contenu du côté anglophone et aussi de la diversité dans les personnes qui le proposent. Parce que, un autre truc, c'est que, malheureusement, je le regrette, je suis le premier à le regretter, ça va clairement manquer de diversité dans cette proposition de personnes. C'est, quand je parle de diversité, c'est en termes de genre ou de couleur de peau. Il y aura surtout des hommes blancs. Voilà, vous voyez ma tronche, c'est exactement le genre de personnes qui produisent du contenu et que moi je consulte. C'est quelque chose qu'on peut me reprocher, je me le reproche moi-même, je le regrette. La diversité, je l'ai dit, est un peu plus présente dans le contenu que je regarde du côté anglophone. Alors, je vais pas m'attarder dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à la fois, je pense, représentatif, en partie au moins, de la production de contenu francophone autour du jeu de société, qui est trusté par des hommes blancs, principalement, même s'il y a beaucoup de femmes, notamment bah, sur Instagram, TikTok et tout, et que ben je regarde pas, et ou parce que c'est plus aussi parfois du côté de la production d'images et tout, et que moi ça m'intéresse pas spécialement, de quand bien même il y a un gros travail derrière. Donc voilà, donc il y a ce premier filtre là sur la production de contenu qui peut-être est représentatif à la fois des personnes qui jouent et des personnes qui donnent leur avis sur les jeux. C'est aussi et surtout, et là il n'y a aucun doute là-dessus, c'est représentatif surtout de mon propre filtre, de mes propres œillères et du fait que ben il faudrait que je les ouvre un petit peu pour aller voir autre chose si ça existe. Voilà, bon, je le regrette, c'est un des biais que je vais avoir dans cette vidéo. Alors ce sera pas un top, ce sera 15 personnes qui ne sont pas organisées par un top, c'est ce sera par ordre alphabétique, tout simplement. Tout de suite aussi, je vous le dis, il y aura du copinage. Des gens que je connais, des amis, des connaissances, des gens avec qui j'ai collaboré. Pourquoi ? Parce que si c'est des gens que j'apprécie, c'est parce que on partage une vision commune autour du média jeu de société et de comment en parler. Voilà, c'est souvent des gens avec qui j'ai travaillé chez Proxy Jeux, ou avec qui je travaille encore chez Proxy Jeux. Faut savoir que ouais, c'est. Vous verrez qu'il y a personne que je ne connaissais avant de collaborer avec ces personnes-là. C'est-à-dire que j'ai pas des amis anciennement qui produisent aujourd'hui du contenu. C'est vraiment des gens avec qui on avait une vision commune, donc ça nous a amené à collaborer ensemble et à proposer une certaine vision de la production de contenu autour du jeu de société. Et ensuite, il s'est avéré que, via ces biais communs, on est devenus des connaissances, des proches, des amis, des gens que je respecte. Donc voilà, j'essaierai d'être transparent là-dessus, sur la manière dont je les connais. Donc voilà, prenez ça avec le recul nécessaire et avec les filtres que vous voulez. Je parlais des œillères, on va écarter certains trucs, les laisser dans les angles morts. Je parlerai que de médias qui parlent uniquement ou très principalement de jeux de société. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui... on a fait un dossier sur est-ce que le jeu de société est encore un loisir de niche chez Proxy Jeux il y a un peu plus d'un an maintenant, vous pouvez aller voir ça. Il y a plein de gens qui parlent de jeux de société, mais qui ne font pas des productions de contenu consacré aux jeux de société. Je pense ici par exemple à plein de gens sur YouTube qui font du lifestyle, de la beauté, et qui par exemple dans des vidéos de favoris du mois... à côté de séries, à côté de produits beauté ou quoi, vont caser un jeu ou l'autre, des jeux modernes. Je pense ici, ben il y a des gens comme Sananas, comme Lodos Makeup, comme Enjoy Phoenix, des personnes comme ça, qui ont une audience bien plus forte que la plupart des gens qui produisent du contenu dans le milieu du jeu de société, qui ont beaucoup plus de vues, et qui, ici et là, parlent ben, de Jaipur, de Mysterium. Hein. Quand je parle de jeux de société, c'est des jeux de société contemporains, modernes, tels qu'on entend nous quand on parle de jeux de société. Ouais, du Dixit, des trucs comme ça. Alors, leur but est pas le même, l'audience est pas la même, c'est-à-dire que c'est pas le même nombre de vues, mais c'est pas aussi le même intérêt porté aux médias jeux de société. Pour le coup, par contre, ça ouvrirait au niveau de la diversité, au moins au niveau du genre. Bon, voilà, j'ai choisi de les retirer de ça parce que je regarde ça ici et là, mais ça parle pas exclusivement de jeux de société. Enfin, je vous invite évidemment à aller dans les commentaires. Alors peut-être pas pour dire hey, mais t'as pas parlé de telle personne, c'est parce que tu l'aimes pas. Alors peut-être qu'effectivement j'aime pas son contenu, d'une part, il y a plein de gens dont je suis pas fan de la ligne édito, Et qui, je l'ai dit, hein, je trouve ça manque de prise de position, ça manque de, notamment sur des sujets que moi je juge importants. Mais c'est pas forcément pour ça. Encore une fois, il y a plein de gens que je consulte et que je trouve qu'ils font du très bon travail, mais j'avais pas envie d'en parler. Mais n'hésitez pas du coup dans les commentaires à mettre, à parler des gens que vous regardez, que vous recommanderiez. À soit à moi, soit aux autres gens dans les commentaires. N'hésitez pas à vous faire des recos entre vous, notamment en ce qui concerne la diversité. Hein. Je disais, moi je vais avoir ce biais un petit peu d'avoir une couleur de peau un peu homogène dans ma vidéo, dans mes propositions, et aussi du côté du genre. Donc si vous avez des propositions qui ajouteraient de la diversité un peu à ces propositions, que ce soit en termes d'originalité du contenu ou de diversité au niveau des personnes qui le proposent, bah, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas. Également, bon bah voilà, comme d'habitude, vous pouvez lâcher le petit pouce qui va bien, partager la vidéo. Voilà. Il y a un petit Buy Me a Coffee aussi, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez participer, que vous pensez que le travail sur la chaîne mérite quelques deniers, vous pouvez y aller. Comme d'habitude, aucune contrepartie, ni en termes de contenu, ni en termes de ligne édito. C'est vraiment juste, bah, vous pensez que ça le mérite, que vous voulez le donner à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Vous pouvez, voilà. Encore une fois, c'est ponctuel, c'est à hauteur de ce que vous voulez à partir d'un euro. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Aussi, dans la description, hein, à chaque fois, évidemment, je mettrai les liens vers les réseaux ou les sites des personnes dont je vais parler pour que vous puissiez vous y retrouver. Et je vais chapitrer tout ça comme il faut. Voilà, c'était une longue intro. J'espère que j'ai pas fait ni trop long, ni que je me suis trop éparpillé. On va pouvoir passer, on va commencer par le A. Et voilà, c'est parti. Et on va commencer par acariâtre. Alors, c'est l'acariâtre, effectivement. Donc, peut-être que c'est dans le L. Vous savez que moi, enfin, vous le savez peut-être pas, mais moi, dans les œuvres ou dans les listes, tout ce qui est le, la, ou bien en anglais, the, etc., je le retire et je garde la première lettre après l'article. Donc, l'acariâtre, ça va à A comme acariâtre. Donc, l'acariâtre, question transparence. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis qu'on a collaboré avant chez ProxyJeux, et même avant, je le suivais sur Internet, sur Twitter, etc. Je suivais un peu ce qu'il écrivait. Il a ensuite rejoint ProxyJeux. On a collaboré ensemble dans ce podcast avant qu'il le quitte. C'est également quelqu'un que je respecte beaucoup, que ce soit en tant qu'humain ou que producteur de contenu. Pour moi, c'est une des personnes qui produit le meilleur contenu en francophonie sur le jeu de société, en tout cas celui que je préfère lire, que ce soit en termes analytiques, en termes d'enjeux aussi de société, un peu de sociologie, de psychologie, de voilà, ce genre de choses, philosophie du jeu, etc. C'est quelqu'un qui anime aussi les Gaming Lab pour, je crois, Asmodée, donc qui s'intéresse beaucoup à toute la recherche autour du jeu de société. Et encore une fois, c'est un humain assez formidable. Voilà, moi c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup la façon dont il a de s'exprimer, pas que sur le jeu de société, c'est-à-dire que chez ProxyJeux, pour moi, le fait qu'il parte, c'était une grande tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions, qui les assume, les exprime, mais sait utiliser la forme pour ne pas blesser les autres et ménager un peu la chèvre et le chou, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Et donc, chez ProxyJeux, forcément, c'est une association où on est une vingtaine de personnes, forcément, il y a des moments où il y a des désaccords, et lui faisait un bon office d'intermédiaire, etc., de manière volontaire ou non. Je trouve que c'est quelqu'un qui sait très bien apaiser les choses et mettre les mots pour essayer de concilier les opinions, tout en faisant en sorte qu'il n'efface pas la sienne. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et voilà. Chez ProxyJeux, qu'est-ce qu'il a fait? Alors déjà, il n'y est plus, mais il a fait plein de choses intéressantes. Il est également auteur, hein, depuis. Il a fait notamment Co-Autora, Maps of Mystera, dont je vous ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne, que j'ai plutôt apprécié, édité chez Sit Down. Donc il est aussi devenu auteur de jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il a produit comme contenu? Alors, chez ProxyJeux, il a fait pas mal de choses. Alors déjà, évidemment, il a participé à des interviews, il a participé à des hors-séries, à des dossiers, ce genre de choses. Mais si on se concentre un peu sur son travail à lui uniquement, il a fait plusieurs chroniques qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. C'était des angles super passionnants. Il y en a justement qui parlent un peu de travaux de recherche sur le jeu de société. Je crois que c'était Ludo Incognito, où vraiment il balaye plein de trucs. Il a fait une saison où il a parlé exclusivement du placement d'ouvriers, de cette mécanique-là, et tout au long de la saison, il a décliné cette idée-là et la façon d'approcher cette mécanique sur plein de points. Il y a aussi une saison où il a parlé des émotions dans le jeu de société uniquement. Voilà, plein de choses très intéressantes chez ProxyJeux. Également, il a fait, alors c'est moins individuel, c'est plus une offre collective, mais c'est lui qui dirigeait Meeple Aventure, qui est une fiction audio autour du audio autour du jeu de société. Incroyable, super bien écrite. Il allait chercher les différents membres de Proxy Jeux pour faire des voix. C'était vraiment très très bien aussi, ça aussi. Tout ça, c'est consultable. Maintenant, il est parti chez Proxy Jeux, il est devenu auteur, je l'ai dit, il anime Gaming Lab ici et là, il avait déjà commencé chez Proxy Jeux. Ce qu'il fait, c'est il a notamment un site, acariat.net, où il fait des articles qui parlent, qui se situent un peu dans la lignée de ce qui l'intéressait déjà quand il était chez Proxy Jeux. Et pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est en termes d'écrit, à la fois au niveau de la forme et du fond, ce que je préfère lire du côté francophone en termes de jeux de société, ou pas loin. Je trouve que c'est bien écrit, que les sujets sont bien abordés, bien sourcés, il y a les références et tout, tout ça est très bien. Donc allez voir ce qu'il fait, les articles sont super variés, et toujours très intéressants. Également, donc il a ce site, il a aussi une infolettre irrégulière, mais qui récapitule un peu justement les derniers articles sur son site, qui fait aussi quelques recommandations, un peu de curation, etc., que ce soit sur des médias ou sur des jeux. Là aussi, vous pouvez vous y abonner. Il est également présent sur les réseaux sociaux, alors surtout sur Mastodon, il a quitté Twitter parce que j'ai dit il a des convictions et il essaye de s'y tenir autant que possible en tout cas. Donc là-dessus, il s'y est tenu. Donc voilà. Et également, je parlais de sa place en tant qu'auteur de jeu. Faut savoir aussi qu'il anime le compte Pictonigme, qui relaye aussi, je crois, dans son infolette, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que c'est toutes les semaines. Alors il y a eu plusieurs itérations un peu du concept. Là actuellement, c'est il met à chaque fois des images qui doivent faire deviner le titre d'un film qu'il lui-même dessine et tout. En général, c'est rigolo, c'est un mélange entre justement association d'idées, jeu de mots aussi, et représentation visuelle et culture cinématographique, du coup, en l'occurrence. C'est plutôt rigolo, donc voilà, c'est le petit truc qui est. Mais chaque semaine, qu'on trouve ou pas, c'est intéressant de s'y confronter. Donc voilà pour Acariâtre, quelqu'un de assez génial, que ce soit en termes de production de contenu sur le jeu de société ou en tant qu'humain, encore une fois, même si là-dessus. Entre guillemets, si vous le connaissez pas, vous le saurez pas, et puis c'est pas ça qui vous intéresse forcément. Mais donc, voilà, c'est ma première recommandation, c'est l'acariâtre. Allez, on continue avec les A, mais cette fois on va partir du côté de l'audio, alors on y était un peu parce que l'acariâtre fait partie de Proxy Jeux, mais là on parle d'un podcast qui a vu le jour l'année dernière, en 2023, en deuxième moitié d'année, c'est Analysis Paralysis, pardon. Vous pouvez le prononcer à l'anglaise si vous voulez. Attention quand vous créez un nom, parce qu'il y a déjà d'autres trucs qui s'appelaient comme ça, Analysis Paralysis, c'est toujours un peu délicat. C'est un podcast qui a été lancé par Mathias de Spiral, qui a lancé Spiral aussi en 2022, je crois, donc Spiral Edition, qui a fait District Noir et qui plus récemment a fait Boréal. Alors, il n'est pas seul à avoir lancé Spiral, hein, mais il fait partie des fondateurs de cet éditeur. Et Mathias, avant ça, il a travaillé chez Matago, il a travaillé dans le monde de l'édition de livres, et également, il a participé, que ce soit à Playback ou à la radio des jeux. Voilà, quelqu'un de sympathique aussi que j'ai déjà rencontré, avec qui il est toujours agréable de discuter. Donc, lui est éditeur. Et lui, il a la place d'animateur, et donc il a réuni une équipe de 4 personnes, une équipe paritaire, donc ils sont 5, donc il y a 3 mecs et 2 femmes, mais du côté des chroniqueurs, disons, ils sont paritaires. Donc, on a, d'un côté, on a Zéphiriel, qui est quelqu'un que je connais aussi, hein, par ailleurs, puisqu'il est chez Proxy Jeux, il a aussi travaillé chez le... Enfin, il fait aussi des chroniques chez Le Défossé avec Alex. Voilà, il fait Soliloque chez Proxy Jeux notamment, et il parle de beaucoup de choses sur les réseaux également. Un grand fan des jeux solo. Donc Zéphiriel. Il y a également Paul Gara, que je connais très bien aussi, puisque elle aussi a fait partie de Proxy Jeux, notamment, et qui aujourd'hui anime le point de Paul Gara. Quelqu'un que je connais bien aussi, et que je juge très pertinente, évidemment. Hein. Du côté des gens que je connais un peu moins, même si, il y a Gauthier. Gauthier qui, c'est aussi quelqu'un que j'ai croisé, avec qui j'ai eu largement l'occasion de discuter, puisqu'il travaillait chez Philibert pendant des années, et moi-même étant de Strasbourg, j'allais aux soirées Philibert, et on a eu l'occasion de discuter, etc., plusieurs fois, de faire des allers-retours en train vers Paris Ludique. Bref, c'est quelqu'un quand même que je connaît entre guillemets, même si c'est pas une connaissance au même niveau que Paul Gara par exemple, et qui aujourd'hui il est plus chez Philibert, mais il est chez Yellow, donc c'est le deuxième éditeur un peu de l'équipe. Il a cette casquette de je sais pas exactement ce qu'il fait, quelque chose comme chef de projet j'imagine, chez Yellow, donc voilà, du milieu de l'édition. Et enfin il y a Pénélope de Pénélope Gaming, donc qui est productrice de contenu elle à plein temps pour le coup, qui produit du contenu sur YouTube, sur Twitch. Qui est également employé chez Martin Wittberg d'Un Monde de Jeux pour tout ce qui est l'actu, etc., qui produit du contenu critique également, et qui aussi, last but not least, est membre du jury de l'As d'Or. Donc encore une autre casquette un peu, donc deux productrices de contenu, enfin Zef aussi est producteur de contenu, et deux personnes plutôt du monde de l'édition. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Mathias quand il a réuni ces personnes? Son idée, et c'est assumé, et c'est communiqué dessus, il l'a dit dès le premier épisode, c'est il s'est inspiré de Studio 404 et Quête Latérale, donc qui sont des podcasts qui étaient du côté de chez Qualité, le label de podcast Qualité, Studio 404 qui parlait de culture numérique, Quête Latérale qui parle de jeux vidéo, et donc c'est clairement une inspiration où chaque personne, donc là c'est sur le jeu de société, chaque personne vient avec sa chronique, son sujet, et entre chaque chronique il y a à la fois des rebonds de la part des autres sur la chronique qui vient d'être faite, et des interludes qui peuvent être par exemple les derniers jeux auxquels on a joué, par exemple des questions aussi des auditeurs auditrices, ce genre de trucs. Donc il y a ce format qu'il a pas inventé, mais qui n'existait pas trop dans le jeu de société, et qui, moi, je trouve intéressant, puisque c'est des chroniques à chaque fois très anglais, avec un angle d'approche qui est bien spécifique, que je trouve en général assez cool et assez varié. Il y a eu des trucs sur la rejouabilité, sur Paul Guerra a fait une chronique sur Trains, le jeu de Brenda Romero, ce genre de choses. Il y a plein d'angles différents, et alors, les chroniques sont plutôt écrites. Pénélope a fait une très bonne chronique aussi sur le FOMO par exemple, sur le Fear of Missing Out. Donc les chroniques sont plutôt écrites, ce qui n'est pas un problème, mais moi ce que je préfère presque, les qualités des chroniques, ça va dépendre en fait ou de l'intérêt que je porte au sujet, mais j'aime beaucoup les discussions qui suivent les chroniques, puisque c'est les moments où on peut un peu digresser, où ça va rebondir, etc., où ça va apporter d'autres points de vue, notamment du fait que chacun amène un peu son point de vue de là où il ou elle vient, donc que ce soit de la production de contenu, que ce soit le jury de l'As d'Or, que ce soit être éditeur. Gauthier parle aussi du fait qu'il a travaillé pour une boutique, donc c'est aussi un point de vue spécifique. Donc cette multiplicité des points de vue fait que le sujet est enrichi entre guillemets par ces discussions. Vous le savez, moi j'aime pas trop la connivence entre production de contenu et milieu professionnel, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce qu'il y a toujours une espèce de double casquette dont on n'arrive jamais à se sortir. Là il y a deux éditeurs. Alors l'idée c'est que de toute façon ils vont pas défendre des jeux en particulier, donc Mathias il va pas être là à dire « vous parlez de Boréal parce que c'est le bon moment où c'est sorti », pas du tout, c'est des sujets qui sont un peu détachés des sorties de jeux en eux-mêmes, en elles-mêmes, mais je trouve qu'il y a quelques moments où il y a des personnes qui sont pas liées au monde de l'édition qui commencent à tacler un peu certaines pratiques éditoriales, et où... moi j'ai eu le sentiment, en tout cas, alors c'était peut-être inconscient, mais où il y a un moment où on dit, notamment Mathias, doucement, et a essayé de trouver des raisons aux éditeurs pour contre-argumenter certains propos de personnes qui sont pas du monde de l'édition, et où moi j'ai eu le sentiment où c'est plus, il défend un peu sa chapelle plus que des arguments vraiment raisonnés. C'est pas arrivé souvent, il y a quelques moments où ça m'a dérangé, je pense pas que ce soit forcément conscient et que ce soit du corporatisme ou quoi, mais c'est les problèmes quand on mélange un peu les genres. Dans l'ensemble, donc, moi j'aime beaucoup. Chez Proxy Jeux aussi, on fait des dossiers. La démarche est différente puisque chez Proxy Jeux, on va choisir un sujet. Par exemple, on a fait le jeu solo, l'immersion, et on va faire des chroniques sur ce sujet spécifiquement. Alors que là, c'est vraiment le jeu de société et chacun vient avec un sujet différent. Donc, c'est pas exactement le même format, c'est pas exactement la même approche. Donc, ça ne fait pas doublon. Niveau du son, c'est pas mal non plus, ils font ça en présentiel, ce qui est plutôt cool, ils se sont cherchés avec le tapis sonore et tout, bon ça c'est des détails, hein. Je crois que pour l'instant ils n'ont pas eu encore à faire l'épisode de podcast qu'ils doivent réenregistrer parce qu'il y a eu un souci à l'enregistrement, donc tant que ce sera pas le cas, ce sera pas un vrai podcast, hein, vous le savez, c'est une petite blague, c'est un running gag sur les podcasts, et aussi, alors je sais pas s'ils l'ont fait sur le dernier, mais j'aime bien quand un podcast est chapitré, surtout quand c'est comme ça des chroniques, et au début ils le faisaient pas. Dans l'ensemble, c'est vraiment une démarche cool que je trouve d'avoir lancé ça. La régularité est plus ou moins régulière, ça dépend des actualités, puisque comme ils sont quand même 5, c'est délicat de trouver des dispos pour chacun, d'enregistrement et tout, et que la santé de tout le monde aille à ce moment-là, et que chacun ait sa chronique et tout, bref. Voilà. Donc, Analysis Paralysis, c'est un podcast que je vous recommande quand même, qui a apporté un petit truc qu'il y avait assez peu dans le monde du jeu de société, et dans le monde du podcast du jeu de société spécifiquement. On reste avec les podcasts, mais on part au Québec avec Balado Ludique, qui qui en est à sa saison 13 déjà, et alors à chaque saison plus ou moins il y a un peu un concept sur plusieurs épisodes où ils vont développer ça et enchaîner différents épisodes autour de cette idée. Là par exemple c'est beaucoup des lives et des questions assez généralistes. Il y a eu une saison où c'était évoludique, où ils reprenaient plusieurs mécaniques de jeu. J'y suis venu par un épisode sur les jeux de plis, qui ça va surprendre, voilà, où pendant 3 heures ils parlaient de jeux de plis et de levée, pas du Johan Levet, hein, des jeux de plis. C'est là-dessus que j'y suis arrivé, c'est assez intéressant, c'est souvent assez complet, ça part parfois un peu, ça digresse et tout. Le son, je parlais d'analysis paralysis, le son de balado ludique après autant d'années est quand même un peu discutable, hein, pour un podcast c'est un peu dommage, parce que autant pour la vidéo, alors il faut un bon son, hein, pour une vidéo normalement, mais pour le podcast, bah en fait t'as que le son, donc ce serait bien de avoir, bon je dis ça, mais à la radio des jeux, à la radio des jeux ça va, hein. J'en parlerai pas ici parce que ça reste des interviews, c'est pas ce que je recherche, et je trouve que les interviews on en a déjà pas mal sur le milieu ludique, mais parce que je pense à Antoine Boza ici, qui fait partie de la radio des jeux, qui a le matériel pour et qui était invité à un podcast de Board Game Geek et le son était atroce. Donc voilà, c'est une anecdote. Le son est vraiment pas leur point fort à balado ludique. Le point fort, c'est plus le format, la culture ludique des intervenants. Voilà, selon les thèmes, il y a eu par exemple l'élégance, la rejouabilité. Il y a eu aussi des retours sur certaines années, un peu comme a pu faire Playback, ou également ils ont fait aussi une saison où c'était des jeux marquants sur une période donnée. Mais la période donnée, c'était pas forcément 2010-2015, c'était la première moitié des années 70 par exemple, donc il y a un côté où on peut vraiment y piocher pour approfondir sa culture ludique et qui est un peu éloigné de la culture de la nouveauté et tout, donc voilà, c'est plutôt cool, si ce n'est le son encore une fois, qui vraiment je comprends pas pourquoi esquiver, c'est pas de faire mieux, surtout qu'encore une fois et c'est pas leur première saison, donc voilà, mais sinon en termes de contenu c'est très intéressant, tout ne se vaut pas évidemment, hein, et vous trouverez votre intérêt sur tel ou tel thème plus que tel ou tel autre. Mais donc voilà, on part au Québec et bon, en plus il y a l'accent auquel vous pourrez ou non être sensible. En tout cas, ouais, il y a aussi ce regard qui est un peu différent, sûrement, hein, selon là où on vient et de là où on joue. Par exemple sur les jeux de plis et tout, j'imagine qu'il y a une culture de jeux de plis qui est aussi venue des États-Unis, qu'on ne pratique pas forcément en France. Bref, voilà, balado ludique, vous pouvez aussi aller écouter ça. On va maintenant parler d'un magazine de Canard PC. Donc Canard PC, c'est d'abord... Alors je disais que je faisais un truc qui est autour de personnes qui produisent du contenu sur les jeux de société. Canard PC, avant d'être du jeu de société, c'est évidemment un magazine sur les jeux vidéo. Un magazine qui aujourd'hui est disponible en numérique aussi, pour un peu moins cher. Où il y a tous les articles qui sont mis dès qu'ils sont écrits. Donc, principalement du jeu vidéo, Canard PC. Mais depuis maintenant pas mal d'années quand même, il y avait toujours des petits articles sur du jeu de société, notamment écrits à l'époque par Ken Lust ou par Guy Moquette, enfin ça dépendait, de personnes qui sont parties de Canard PC. Hein. Aujourd'hui, c'est Perco notamment qui s'occupe un peu de la verticale, je crois qu'on dit comme ça, jeu de société. Ça fait des années, hein, là c'était le 11e, alors celui-là il date de quand? Il date plus ou moins de fin 2023. Ils font des hors-série jeux de plateau, où il y a quand même tout un hors-série, hein, au prix à peu près de 9-10€, et alors, il y a des revues de jeux. Je trouve que leurs revues de jeux dans les magazines Canard PC sont en général d'un meilleur niveau, parce qu'ils savent mieux écrire, tout simplement, que la plupart des critiques ou des avis qu'on peut trouver sur Internet par des médias qui parlent que de jeux de société. Reste que ça reste de la revue que je juge assez peu intéressante vis-à-vis de moi. Enfin, c'est intéressant, peut-être, pour se faire des idées ou quoi, d'achat. C'est un peu trop dans l'influence review dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire avec une présentation un peu trop longue des règles. C'est pas forcément ce que je préfère, même si encore une fois c'est d'un meilleur niveau que pas mal de gens qui ne parlent que de jeux de société. Mais ce qui m'intéresse moi dans les hors-série, donc il y a Perco, mais il est pas tout seul, hein, évidemment, voilà, lui c'est un peu lui qui chapeaute le tout, mais ils sont plusieurs, et notamment dans les dossiers, au-delà de l'équipe habituelle qui écrit sur les jeux, donc il y a Tisseur de Rêve, il y a Nodus, qui donc était un moment chez Gamekult, qui écrit aussi de temps à autre, il y a Untitled, qui travaille aussi chez Plateau, donc voilà. Et il y a aussi souvent des petits dossiers qui sont faits pas forcément par les mêmes personnes, il y a des interviews, bon, les interviews, je vous ai dit, c'est pas forcément ce que je préfère, parce qu'il y a plein d'endroits où on peut les consulter, mais voilà, il y a Jesus aussi, il y a souvent un petit truc sur le jeu de rôle, sur également les figurines, sur la peinture. Alors c'est pas des trucs que je pratique, mais du coup, en fait, je m'intéresse moins à ça, du coup ça m'intéresse plus là-dedans, parce que c'est des propos auxquels je suis moins souvent confronté. Mais ce que je préfère en général, c'est clairement, alors la maquette est cool et tout, encore une fois, beaucoup d'articles de jeux de plateau sont retrouvables sur les internets. En général, c'est plutôt les dossiers, qui sont un peu des articles plus de fond, des choses qu'on a moins tendance à trouver sur justement sur internet et en termes de propositions de contenu, qui se rapprochent un peu plus de ce que fait Canard PC aussi pour le jeu vidéo, ou de ce que pouvait faire Gamekult à un moment, ou de ce que fait Origami. Donc vraiment des dossiers, moi c'est là-dessus, par exemple celui-là c'était écologie et jeux de plateau. Il y a plein de petits trucs qui sont intéressants. En général, c'est la partie que je préfère là-dedans. Donc voilà, aussi, au-delà de ça, il y a aussi eu des émissions spécifiques. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, malheureusement, mais quelques émissions où, justement, l'équipe Jeux de Société faisait une émission. Canard PC a une émission qui est toutes les deux semaines, je crois, sur le jeu vidéo, où il parle des actus et tout. Donc, c'était un peu sous ce format-là, avec soit des dossiers, soit des trucs du genre, et qui prenait ce format et qui était intéressante, parce que beaucoup de digressions, moi j'aime bien les digressions, vous le savez, et également parce qu'il y a une forte audience en fait, comparé à plein de médias jeux de société, ils avaient une audience plus forte en termes de vues, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch en direct, donc en fait c'est apporter du jeu de société à des gens à plus grande ampleur en fait que ce que fait habituellement le jeu de société, donc c'était cool. Il n'y en a pas eu depuis longtemps des émissions, c'est un peu dommage, mais j'espère qu'il y en aura à nouveau. Mais donc ouais, les hors-série jeux de plateau, moi c'est quelque chose que j'achète toujours. Alors, j'y trouve rarement mon compte, encore une fois, du côté des reviews, des avis. Alors, des fois il y a quelques bonnes critiques, hein, celle sur Résistance, là j'ouvre celle-ci de Perco, je me suis beaucoup appuyé dessus moi pour en parler, parce qu'il avait un retour d'expérience qui m'intéressait dans la manière dont il l'a formulé et tout. Encore une fois, même si c'est pas forcément ce que moi je vais dire et tout, c'est mieux écrit que la plupart des reviews qu'on peut trouver sur internet. Donc voilà, Canard PC, que ce soit ben les émissions sont toujours consultables sur YouTube, mais sinon la verticale, enfin le site, vous pouvez aller voir, vous abonner, et sinon ben, les hors-série jeux de plateau, il y en a 2-3 par an à chaque fois, donc voilà, ça vous fait pas un gros investissement, mais c'est pas mal, notamment pour les dossiers. On va partir au Japon. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de The Drowning Pawn, qui est donc Jean-Phi, qui vit au Japon, au moins de manière intermittente, je sais pas s'il y est tout le temps ou pas. Alors Jean-Phi, c'est quelqu'un qui ne fait le The Drowning Pawn, le pion qui se noie, il fait plus de vidéos, et c'est bien dommage, parce que en termes de production francophone, c'était sûrement une des personnes qui avait la plus forte identité en termes de production de contenu, c'est-à-dire que dans la forme, dans le ton, dans la façon de présenter, bah c'est quelque chose qui avait sa patte et que il y a quasiment pas, en plus d'être évidemment clair et tout, ça c'est entre guillemets une base que plein de gens ont, quand bien même c'est pas original, lui il avait quand même une façon de le faire qui était assez originale, assez unique, et surtout pourquoi est-ce qu'il était intéressant au-delà de la forme, hein, c'est que ben comme il est au Japon, en fait il parlait de jeux qui sont intéressant et qu'on ne trouve pas en France, et que du coup c'était une source de curiosité. Moi, vous savez qu'aujourd'hui j'ai plein de sources différentes pour aller chercher un peu des jeux à l'étranger, que ce soit notamment en Asie, pour me renseigner dessus. Et ben lui, c'était une des rares sources francophones à l'époque, en tout cas, parce que il le faisait depuis des années, hein, il a arrêté depuis des années, donc il le faisait depuis encore plus longtemps. Et c'était une des rares sources francophones pour vraiment dénicher. Bon, il y avait Isobretnik, hein, qui était chez Proxy Jeux, qui faisait une chronique, Kaigai Games. D'ailleurs, il y a une petite histoire, une petite anecdote, c'est que The Drowning Pawn, à la base, il s'était appelé Kaigai Games, et donc on l'avait contacté pour dire, en fait, on a déjà une chronique qui s'appelle comme ça, et il s'était renommé Le Pion qui se noie. Et voilà, c'est de l'anecdote, mais c'est comme ça qu'on l'avait découvert, et finalement, très bonne découverte, parce qu'encore une fois, aujourd'hui encore, si vous allez voir sa chaîne, vous trouverez des jeux dont vous avez sûrement jamais entendu parler, donc il y a cette curiosité, moi je suis quelqu'un de curieux, j'aime bien, quand bien même les jeux sont pas forcément bons, c'est sortir un peu justement de tous les jeux dont on nous abreuve et qu'on voit un peu partout, bah lui c'était des jeux qu'on voyait pas partout et que même aujourd'hui on voit encore nulle part. On continue avec YouTube, avec Jaco Pose des Ouvriers, donc c'est Alice, qui Alors, c'est une présentation. Alors, pour le coup, sur la forme, c'est beaucoup moins travaillé, entre guillemets, que le Punkist Noir, par exemple. C'est assez roots, hein, c'est une caméra, un casque micro, et puis boum, je déblaye mes trucs. Alors, je sais pas sur quoi elle travaille, mais en gros, elle passe les images, que ce soit sur sa visionneuse, avec juste une image du jeu, enfin, souvent, hein, une image du jeu et la couverture, et elle, la plupart de ses formats, c'est juste parler du jeu. Donc ça s'apparente un peu à ce que je disais, qui moi ne me plaît pas plus que ça, c'est-à-dire qu'en termes de contenu et de manière de le présenter, c'est de la revue de jeu, une opinion. Moi j'aime bien dire avis, opinion, parce que le terme critique est tellement sujet à plein de trucs que voilà, il y a plein de choses. C'est toute une autre émission pour dire ce qu'est de la critique ou pas. Chacun a son point de vue là-dessus, il y a différents critères, il y a des sources à aller chercher du côté de la philosophie critique et tout. Bref, en tout cas, c'est pour ça que j'aurais plus tendance à dire opinion et avis. Il y a des trucs qui se rapprochent de ce que moi je considère comme de la critique, des fois un peu moins. Là, on est clairement dans des avis et des présentations de jeux qui sont encore une fois sous une forme qui est assez classique, hein, qui est sur le ressenti, mais surtout aussi sur un peu pas mal d'analyses, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Alice, c'est une des rares personnes, encore une fois, et ça se rapproche dans ça du Pion qui se noie, de Drowning Pawn, une des rares personnes dans le milieu francophone qui va parler de jeux dont j'ai pas entendu parler ailleurs. Ok, je parlais de Canard PC un peu plus tôt. Canard PC, tous les jeux dont il parle dans le hors-série jeux de plateau, sauf rare exception, j'en ai déjà entendu parler, on en a vu passer plein d'images, plein de revues, etc. Alice, elle arrive quand même, parce que notamment elle s'intéresse à la production Kickstarter, à ce qui se fait du côté anglophone notamment, à trouver des trucs où je me dis, tiens, soit c'est la première à en parler, c'était le cas par exemple pour Rise, soit bah en fait c'est la seule à en avoir parlé. Donc en fait, au-delà de la forme que moi je juge pas forcément très originale, ni forcément qui est le plus ma cam, ou ce que je recherche le plus en termes de contenu, en termes d'identité, c'est plus le contenu en lui-même qui m'intéresse et qui fait figure un peu d'originalité. Allez, on va continuer, et vous allez voir que ben, mon but là dans cette vidéo, c'est pas de parler des petits inconnus qui font YouTube et que vraiment vous n'entendez pas assez, dont vous n'entendez pas assez parler. Il y a un peu de ça ici et là, hein, c'est pas que des grosses chaînes. Mais c'est pas l'angle de la vidéo, donc là on va parler du Passe-Temps, qui est sûrement la chaîne francophone la plus vue et la plus suivie en France, ou en francophonie en tout cas. Donc voilà, je vais pas vous faire découvrir le Passe-Temps, hein, mais mine de rien, c'est une chaîne qui, malgré qu'il y a deux chaînes, hein, il y a le Passe-Temps, qui, alors il le présente souvent comme faisant figure de porte d'entrée pour les gens qui découvraient le jeu de société avec bah, les meilleurs jeux du moment, les 10 jeux qui ont changé ma vie, quoi jouer si vous avez beaucoup joué, je sais pas, à Cluedo et que vous voulez changer, ou à Risk et que vous voulez un peu changer avec du jeu de société moderne. C'est la porte d'entrée, il y a l'extension du Passe-Temps où il y a le format principal, c'est le C-Dispo toutes les semaines, où on est dans l'information des sorties de la semaine, avec quand même une touche, hein, le Passe-Temps, on va en parler, mais c'est une identité qui est portée d'abord, qui a été portée pendant longtemps par Simon, qui est aujourd'hui le patron, mais le Passe-Temps c'est toute une équipe, et donc y a eu Rachel, il y a eu Lola, il y a Sébastien, il y a Amandine, il y a Nicolas, et Thomas, etc. Et tous ces gens, c'est une équipe qui va apporter une multiplicité des points de vue, même si souvent le Passe-Temps est un peu réduit à Simon, qui fait figure de la personne qui anime ça, alors qu'encore une fois il n'est pas tout seul, n'oubliez pas les autres s'il vous plaît. En tout cas, donc l'extension du Passe-Temps, c'est plus les trucs plus pointus, c'est là aussi où ils donnent des avis un peu plus nuancés, c'est là aussi où ils peuvent peut-être un peu plus expérimenter. Et ce qui est intéressant, c'est que même si c'est une très grosse chaîne, encore une fois, proportionnellement aux jeux de société, hein, on n'est pas sur de l'influence, lifestyle, etc. On n'est pas sur des millions, hein, mais on approche des 100 000 abonnés quand même, ce qui est beaucoup. Mais et surtout aussi, au-delà du nombre d'abonnés, leurs vidéos font beaucoup de vues, plus que le nombre d'abonnés. Donc voilà, on parlera plus tard de l'Udema / Punchboard, mais lui, il vous dirait un petit peu ce qu'il faut faire attention sur les chaînes YouTube en termes de chiffres, et que c'est pas les abonnés. Quoi qu'il en soit, malgré ce succès-là, malgré ce côté installé, Tric-Trac a beaucoup influencé, je pense, pas le Passe-Temps, hein, mais a beaucoup influencé une certaine façon de présenter les jeux de société avec ce truc top-down, qui sont une forme de logique, hein, mais vous savez, comme un peu à un moment il y a eu une façon de filmer le foot ou le sport, et ben Tric-Trac a, je pense, influencé énormément de gens sur le monde de jeu aujourd'hui s'inspirent beaucoup, pour moi, de ce que faisait Trick Track, que ce soit avant le Trick Track Show ou depuis le Trick Track Show. Bref. Et aujourd'hui, le passe-temps a énormément influencé des gens pour la production de contenu, notamment les boutiques, avec leur format du C-Dispo, ou vraiment... faut voir en fait que le passe-temps, donc c'est une boutique d'abord à Toulouse, et qui vont aussi en ligne et tout, mais la chaîne, c'est un à côté, qui n'est sans doute pas rentable en tant que chaîne, mais qui permet d'à côté de faire vivre et de donner de la visibilité à la boutique, au-delà du fait d'être un écrin pour parler de jeux de société de manière originale, et peut-être de... la boutique, c'est du travail et tout... YouTube, c'est aussi beaucoup de travail, mais de varier un peu les plaisirs, et aussi d'expérimenter des choses, parce que ce que j'y viens, hein, je digresse moi-même, malgré ce nombre d'abonnés-là, malgré ce succès, il y a ce côté chez le passe-temps où il se repose pas sur des acquis. Alors effectivement, il y a des formats qui reviennent, le C-Dispo par exemple, même si dans des C-Dispo, ils se permettent des expérimentations, ils sont pas là non plus pour faire au plus vite ou pour coller au format que YouTube aime, c'est d'ailleurs qu'ils font ce que eux veulent, ils digressent beaucoup, ils font des blagues, ils font des sketchs, ils font des chansons, que sais-je. Donc, il y a ça dans le C-Dispo, mais il y a aussi une expérimentation du côté de la chaîne principale et une évolution des formats, c'est-à-dire que il y a des formats qui restent, mais ils savent les faire évoluer, que ce soit Camarades, que ce soit également les C'est la vie, c'est sur l'extension, ça je crois, du passe-temps, mais... il y a ce côté où ben on essaie de se renouveler parce que c'est important vis-à-vis de YouTube sûrement, mais aussi vis-à-vis de la production de contenu. Si on fait tout le temps le même truc, on finit par s'ennuyer et tomber dans une routine qui n'est pas forcément hyper agréable et qui, si on le fait comme ça et que finalement bon bah ça marche, mais il y a un manque de challenge, de se challenger personnellement. Et donc le passe-temps, c'est surtout, je parlais de la qualité de la du fond. Il y en a, il y a de l'écriture et tout. C'est surtout aussi au niveau de la forme où c'est vraiment top. Alors déjà au niveau de la qualité de l'image et tout, mais surtout au niveau des idées de réalisation, au niveau du montage, au niveau des incrustations et tout. Alors vous verrez ici et là quelques fautes de frappe et tout, mais ça c'est pas très important. Il y a évidemment la vidéo qu'ils ont fait sur Expédition qui est un vrai challenge technique et qui vraiment... Et pour autant, derrière le propos, enfin c'est au service du propos, c'est-à-dire que c'est une performance en elle-même. Mais c'est pour servir ce que Simon avait à dire sur Expédition et qui est intéressant au-delà de ça. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, il aurait pu le dire sans faire tout cet habillage. Et il y a ce côté où on va essayer de faire des trucs, ça marche pas, ça nous prend du temps, c'est chiant. À la fin, on a proposé un truc qui peut-être ne les satisfait sans doute pas entièrement, mais qui en tout cas a le mérite d'être là. Donc... voilà, moi ce que j'aime beaucoup chez le passe-temps, au-delà de l'identité des différentes personnes, c'est, encore une fois, Simon est quelqu'un de très enthousiaste et tout, et ça peut lui être reproché à certains moments par certaines personnes. Faut savoir que moi, Simon, en fait, je l'ai connu avant que le passe-temps lance YouTube, parce que je faisais Playtime vers 2015, et que j'avais un format où on parlait de jeux récents, et par hasard, hein, c'est-à-dire que je savais même pas que le passe-temps était une boutique et tout, il était venu pour parler de, je crois, CS-Files avant que ça arrive en France, et de Time Bomb avant que ça arrive en France. Deux jeux qui défendent toujours, notamment Time Bomb. Hein. Si vous voulez, alors le son est ce qu'il est, hein, voilà, mais vous pouvez aller écouter, et il était exactement pareil, alors qu'il était pas sur YouTube en train de montrer sa tronche à des milliers de personnes, il était sur un petit podcast, vous verrez qu'il a le même enthousiasme à l'audio. Pour l'avoir croisé, moi aussi, en plus à PEL, bah, il est comme ça. Bon, après, voilà, c'est quelqu'un qui est très communicatif, ça peut déranger, on peut ne pas accrocher à ça, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il y a plein d'autres personnes dans l'équipe auxquelles vous pouvez vous raccrocher. Alors, si vous n'aimez pas non plus les blagues de Sébastien, désolé, mais bon, soit. Il y a également une forme, donc, originale dans la production de contenu, notamment dans la forme, un propos. Alors, c'est pas les plus grattants, hein, c'est pas ceux qui vont plus gratter, mais il y a quand même ici et là quelques prises de position qui sont intéressantes, et où ils hésitent pas à dire les mots, malgré leur place de boutique et de professionnel. Alors sans doute pas autant que ce qu'ils vont vous dire en off, ou que des gens totalement détachés du système vont dire, reste que, comparé à plein de personnes qui ne sont même pas liées à l'influence et au monde professionnel, et qui sont très très complaisants vis-à-vis de plein de trucs, ils vont quand même prendre ici et là des positions. J'ai parlé de la variété de l'équipe et donc de la variété des points de vue. Il y a aussi la force de la démocratisation de la chaîne, hein, c'est une des chaînes qui participe le plus à la démocratisation du jeu de société sur YouTube. Au-delà des activités, hein, dans dans toutes les villes, etc. Enfin, chaque boutique participe sans que ce soit par la vidéo, évidemment. Il y a un autre truc, c'est ils sont très liés au monde professionnel, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est des boutiques, hein, donc leur but, c'est ça reste de vendre, si possible, des jeux corrects et pour que les gens reviennent. Hein, l'idée, c'est la fidélisation. Et donc, une chaîne YouTube, c'est aussi un moyen de faire parler de soi pour que peut-être les gens viennent plus chez le passe-temps que chez les concurrents, notamment en ligne, hein, je veux dire, parce que sinon, ils vont toujours dire allez acheter dans sa boutique de proximité, c'est cool. Mais si vous regardez ça et tout, ils ont pas de Patreon ni rien. Si vous voulez venir acheter chez nous, c'est cool, quoi, parce que en fait, YouTube, ils ont beau faire pas mal de vues, ça rémunère que dalle. L'autre moyen de se rémunérer, c'est donc les partenariats avec les éditeurs, et là-dessus aussi, je trouve qu'ils sont assez transparents. Vous pouvez aller voir l'interview de Simon par Punchboard, où il est clair sur le fait que il sait qu'il y a certains trucs de la loi qu'il respecte pas, notamment l'affichage permanent de la collaboration commerciale, parce qu'il trouve ça moche. Reste que c'est transparent à la fois vis-à-vis de leur position de boutique, et donc que la chaîne YouTube, c'est un à côté d'une boutique, et donc d'un truc commercial, mais surtout aussi quand ils collaborent avec qui font des partenariats avec des éditeurs, ils l'annoncent à chaque fois. Et il y a une démarche que moi j'aime assez, qui renverse un peu le rapport de force influenceur-éditeur, c'est que plutôt que de recevoir des boîtes et de recevoir des demandes de « Hey, vous voudriez pas parler de ce jeu-là et on vous rémunère, mais et vous en dites si, c'est ça, vous en dites du bien, etc. » Ils sont dans l'autre sens où ils vont voir l'éditeur et dire « Écoute, nous on a bien aimé ce jeu, on aimerait bien en parler, on a plein de choses à dire, on en dira aussi, on fera des nuances et tout, mais tu veux pas nous donner de la thune pour qu'on en parle ? Parce que de toute façon on en aurait dit du bien, donc en fait, est-ce que tu veux pas que on dise ce qu'on aurait dit, mais en nous payant ? » Et il y a un rapport de confiance, évidemment, du côté professionnel là-dessus, hein, sur lequel je vais pas revenir, mais donc voilà, ouais, je trouve que cette transparence-là et cette démarche-là d'aller chercher des financements pour des trucs qu'ils ont appréciés plutôt que de recevoir des financements pour ensuite parler d'un truc dont ils auraient pas forcément parlé, c'est plutôt cool. Donc voilà, encore une fois, je me suis étalé, le passe-temps, de toute façon, vous connaissez sûrement, hein, si vous regardez cette vidéo, il y a peu de chances que vous connaissiez pas, bon, une évidence, mais je recommande à la fois la chaîne principale et l'extension. Une recommandation un peu particulière maintenant, parce qu'en fait, vous aurez peu de chances de tomber vraiment dessus facilement. C'est Pauvle. Pauvle, qui est un gars qui écoute Proxy Jeux, qui traîne sur Facebook et sur Discord, notamment. Moi, c'est là que je lis ce qu'il écrit. Donc, si, vous pouvez le retrouver sur Spotify, parce qu'il fait de la musique. Voilà, rien de lié aux jeux de société de ce point de vue-là. En tout cas, je crois pas, à moins qu'il y ait certaines musiques qui soient là pour retranscrire certaines de ses parties. Mais sinon, vous le trouverez, il poste de temps en temps sur la communauté des ludistes francophones, un lieu que je vous conseille d'éviter, sinon, pour votre santé mentale. Mais il y a quand même des choses qui, parfois, y sont intéressantes. Et aussi sur le Discord du passe-temps, du coup, ou de Proxy Jeux, mais sur le Discord du passe-temps, il fait des retours assez détaillés de ses parties. Alors, sur la communauté, comme en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à des jeux que moi j'aime bien. Il est très très fan de Friedman Freeze, par exemple, pas que, hein. Mais et il fait des retours intéressants qui, je trouve, sont à chaque fois des analyses plutôt pertinentes et plutôt bien construites et qui, moi, me parlent en termes, pour le coup. Souvent, certains de ces trucs s'approchent de ce que moi je considère comme de la critique, en termes de ressenti et tout, et de façon de présenter les choses. C'est à la fois la forme qu'il utilise, que je trouve très bien, et aussi la curiosité, parce que les jeux qu'il traite, c'est rarement les jeux qui sont le plus mis en avant. Et même si c'est des jeux plus mis en avant, il va avoir une façon originale de les traiter. Donc, encore une fois, voilà, bon. Allez sur le Discord du passe-temps pour laisser un retour, ou bien, parfois, alors, sur la comme en fait, lui, il fait des retours honnêtes et tout, et donc il y a des trucs qu'il aime pas, et il va dire, c'est pas bien, en fait, enfin, selon lui, quoi, évidemment. Sur la communauté, comme c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de complaisance envers les éditeurs et envers le milieu professionnel, et où tout est beau et tout est merveilleux, il s'est parfois fait tirer un peu dans les pattes, parce qu'il avait dit que tel jeu était pour lui pas bien du tout, et qu'il comprenait pas, etc. Bref, il avait critiqué, mais sans que ce soit lapidaire, hein. C'est-à-dire qu'il avait plein de bons arguments, et encore une fois, c'était très bien écrit. Mais voilà, Facebook, la communauté n'aimait pas ça. Sur Discord, il a passé retour là, parce que la communauté du passe-temps est un peu plus prête à ce genre de nuances. Mais donc voilà, bon, je sais pas comment vous pouvez consulter, aller sur le Discord du passe-temps ou quoi, mais en tout cas, je voulais dire que c'est une des personnes qui écrit sur Internet, alors, à des endroits très précis, si vous voulez faire une infolettre ou un truc comme ça, un petit site, Je suis preneur, avec où il regroupe ses avis, parce qu'à chaque fois c'est très bien écrit. Allez, après pauvre que vous allez avoir du mal à aller lire, on va partir sur quelqu'un que vous pouvez aller facilement consulter, c'est quelqu'un que j'ai déjà cité, c'est Pénélope, dont je parlais quand je parlais d'analysis paralysis, donc Pénélope de la chaîne Pénélope Gaming, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, qui encore une fois travaille aussi chez Martin Wittberg d'Un Monde de Jeux, qui également est jury à l'Asdor, enfin fait partie du jury de l'Asdor. Donc Pénélope, c'est quelqu'un qui... Pourquoi est-ce que je l'inclus ici? Tout ce qui est présentation de jeu et tout, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, hein, elle fait des parties. Ce qui m'intéresse sur sa chaîne et que je vais en général voir, c'est... bon, déjà, c'est quelqu'un qui, malgré sa position en tant que jury, qui, enfin, dans ce jury qui, du coup, doit être assez critique et faire des classements, entre guillemets, en les jeux pour finir par en garder certains pour l'Asdor, au-delà aussi du fait que je trouve que... Alors, elle n'est pas toute seule, hein, mais elle fait partie d'un jury qui a des choix assez importants en termes de diversité, également de d'identité. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait Alice is Missing, là, cette année, il y a eu Challengers aussi, il y a eu Ayla cette année, il y a eu La Familia, donc des jeux qui, quand même, sont pas si consensuels et qui rassemblent pas forcément tout le monde, mais qui ont des identités assez fortes. Donc évidemment, elle n'est pas seule dans le jury, donc c'est pas elle qui décide, mais en tout cas, elle fait partie de ce jury-là. Donc... Au-delà de ça, donc ce que je consulte dans son contenu, il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, encore une fois, c'est quelqu'un qui est assez critique, pas du côté critique, l'art de la critique, mais assez critique, assez dur avec certains jeux, malgré sa position de membre du jury et le lien qu'elle peut avoir avec les éditeurs. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, encore une fois, alors, elle a des positions assez fortes sur l'IA, que je partage pas forcément, en tout cas pas à 100%, ou pas de manière aussi virulente. Y a aussi... voilà, y a plein de trucs qu'elle propose qui ne me correspondent pas, mais par contre, en général, quand elle fait des parties, derrière, elle a une petite partie critique. Alors, est-ce que c'est une critique ou pas? Là encore, je vous laisse libre de juger ça. Moi, ça correspond pas forcément à l'idée que moi, je me fais d'une critique. Ça correspond plus à l'idée que je me fais d'une review. Mais cependant, elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, et que ce soit en accord ou pas avec ce qui se dit en général. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, comme sur certaines chaînes où tout est bien. Là, récemment, elle a parlé de Coffee Rush, elle a vraiment pas aimé, bah, elle n'a pas hésité à le dire. Boreal, bah, elle a aimé, là, c'est un jeu que j'ai pas aimé, mais elle va se poser un peu en opposition à une certaine tendance. Alors, peut-être pas globale, mais en tout cas, il y a eu pas mal de retours assez mitigés sur Boreal. Et bah, elle va dire, bah non, moi je l'ai trouvé vraiment bien pour telle ou telle raison. Et donc ouais, il y a ce côté-là où elle est beaucoup dans l'analyse de mécanique, enfin dans l'analyse, non, dans l'analyse pardon, de mécanique et de game design. Parfois un peu, c'est pour ça que moi je trouve que on est plus dans de l'analyse que dans de la critique. Et notamment, elle va mettre le doigt sur certains trucs, sur certaines dynamiques de partie et tout, de manière assez pertinente. Donc et encore une fois, ça va parfois un peu à l'encontre, et ça se retrouve aussi dans ses chroniques sur Analysis Paralysis, qui sont souvent, au-delà d'être très bien écrites, assez cool. Ça va un petit peu dans des directions un peu différentes de ce qu'on trouve d'habitude sur YouTube. Là encore, c'est forcément, si vous intéressez un peu aux jeux de société, un nom que vous avez déjà entendu. Je sais pas ce qu'elle produit sur les autres médias par ailleurs. Il y a un autre format qui est né il y a peu et que j'apprécie, c'est Archéologie qu'elle fait avec Paul Gara. Chez Proxyjeux, on a sorti un grand jeu qui est animé par Pionfesseur et Cyrus, qui revient sur des vieux jeux, et enfin plus ou moins vieux, et qui revient sur la ludographie de l'auteur. Et ben, alors je dirais pas que c'est un sorti un grand jeu chez Pénélope, mais il y a un peu ce côté amour des vieilles choses et intérêt porté à une forme de patrimoine ludique. Je parlais de balado ludique aussi un peu, qui est un peu ça. Il y a ce côté où ben parfois regarder un peu vers le passé plus lointain, c'est intéressant, ça donne d'autres perspectives, ça donne un autre regard sur les productions actuelles. Ils ont fait là récemment, ils ont fait le Funland, ils avaient fait Saint-Pétersbourg. Donc des jeux qui sont bien ou pas, peu importe, mais en tout cas qui permettent de regarder un peu plus loin que juste il y a un an ou il y a quelques mois, et de voir comment ça s'installe et comment ça a pu influencer certains trucs. Et ça retrouve le format qu'elle a pour ses critiques, hein, c'est-à-dire une présentation, une partie, puis... une discussion sur le jeu. Donc voilà, c'est un format que j'aime bien parce que bah justement c'est pour parler de choses un peu plus anciennes qui est pas forcément l'angle privilégié dans la production de contenu sur le jeu de société. c'est reparti pour du gros copinage avec le pionfesseur qui participe comme moi à Proxy Jeux et que je vois très régulièrement. Donc voilà, quelqu'un que je considère et qui est une connaissance proche. Donc le pionfesseur, vous savez, c'est celui qui design des jeux en 10 minutes sous la douche, des mini-euros comme il les appelle. Alors c'est quelqu'un qui produit beaucoup de contenu sur Proxy Jeux, qui produit dans les chroniques les analyses du pionfesseur, où moi je trouve que c'est là-dedans qu'il est le meilleur, hein. C'est les analyses de game design où je trouve que vraiment il sait, il a un bagage ludique qui est assez fort, donc il peut faire des liens, des comparaisons, des filiations, etc. Il est très bon en analyse de game design et pour voir des trucs qui marchent pas. Il a cette volonté aussi critique, cette fois-ci il a la volonté de se rapprocher de la critique telle que l'art de la critique entre guillemets au sens plus académique et théorique de la critique, avec, alors on a plein de points sur lesquels on se rejoint pas et qui sont l'occasion souvent quand on se croise de discussions qui s'éternisent. Heureusement que vous avez pas tout ça chez Proxy Jeux, sinon ça serait trop long. Mais même chez Proxy Jeux, hein, y a plein de moments où vous voyez bien qu'on n'a pas forcément le même regard sur certains points. Même si sur le fond, on a quand même des visions assez proches à la fois du monde du jeu de société, je pense, et de comment parler d'un jeu et de ce qui est important de parler dans un jeu. Il y a quand même des points de désaccord et c'est pas grave, hein, dans l'absolu. En tout cas, c'est pour moi, ouais, en termes des analyses du professeur qui arrive en moins de 10 minutes à prendre un point de game design et à le décortiquer, c'est vraiment brillant à chaque fois. Ses participations au dossier sont toujours assez intéressantes. Il a aussi une forte capacité à improviser sur un sujet parce que bah, il a le bagage pour, en fait. Donc quand on a le bagage pour et les antécédents, bah, en fait, c'est entre guillemets facile de parler d'un sujet si tant est qu'on est un peu à l'aise à l'oral, ce qui est c'est son cas. Donc voilà, chez Proxy Jeux, il fait aussi évidemment Sortons de Grands Jeux, là aussi le bagage ludique aide beaucoup, donc il fait ça avec Cyrus, où ben, ils prennent un grand jeu, ce qu'ils considèrent en tout cas comme un grand jeu, ils expliquent pourquoi pour eux c'est un grand jeu, et son auteur ou son autrice, et ils développent un petit peu à la fois l'historique, c'est beaucoup de l'analyse, de la recontextualisation du patrimoine, et aussi de l'analyse d'auteur, puisqu'ils essayent de voir la patte de l'auteur ou de l'autrice. Voilà, il fait plein de trucs comme ça. Il fait aussi Faites vos jeux cette année avec Mad, où il parle de variantes et de manières différentes de jouer à un même jeu. Donc ça c'est bon, bref, allez voir ce qu'il fait chez Proxy Jeux, hein, il participe à plein de trucs. Même si par exemple les interviews, c'est pas du tout, je pense, son format préféré, en tout cas les interviews du secteur professionnel, parce que il a un avis assez tranché et que je rejoins souvent pour le coup sur la proximité qu'on peut avoir en tant que producteur de contenu et le milieu professionnel, et également tout le bullshit qu'on sert à longueur de temps. Il est de manière assez violente et virulente anti-éditeur, si possible. En fait, dans un monde idéal, il aimerait bien qu'on puisse se passer notamment du système éditorial et de la distribution. Allez écouter Proxy Jeux, hein, si vous n'êtes pas au courant de ses positions là-dessus. Il les explicite un peu plus que à l'écrit ou que la manière dont je le présente. À l'écrit aussi, il est assez virulent. Parfois, ça lui vaut... Moi, je lui ai souvent dit que si je le connaissais qu'à l'écrit, je penserais que c'est un gros facho, ce qu'il n'est pas. Pour le coup, je le connais, donc je peux vous assurer qu'il n'est pas facho du tout. Mais il a des formes qui peuvent un peu rejoindre, disons, en termes de rhétorique et de forme, la culture de la punchline, alors qu'il n'est pas spécialement un monopole de l'extrême droite, mais ça donne l'impression que parfois il fait des raccourcis un peu violents et qui vont parfois qui laisse penser qu'il pense le contraire de ce qu'il pense vraiment quand on le connaît. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Si je le connaissais que par l'écrit, je pense que je l'aurais bloqué. et je l'ai déjà dit. Parce que il y a parfois effectivement des façons de formuler. Alors, il vous dirait que, ben, en fait, plutôt que de parler de la forme, parlons du fond. Et il aurait raison dans une certaine mesure. Reste qu'il éloigne plein de personnes de son fond à cause de cette forme. Notamment à l'écrit, donc il a écrit des critiques sur Ludovox qui pour le coup prennent le temps d'être rédigées et tout, donc qui lui a attiré un peu moins les foudres que ses punchlines sur Twitter, parce que sur Twitter il a aussi lancé, pour s'essayer un peu à la critique, critique ludique, où il essayait en un tweet de faire une critique d'un jeu de manière plus ou moins réussie. Ça dépendait des jeux, alors que ce soit des jeux qu'il a aimé ou pas, hein, c'est pas les enjeux. Le but c'était de faire une critique, peu importe la qualité du jeu. Et encore une fois, c'est une critique, c'est pas négatif ni positif, hein, c'est pas ça le sens de critique. Moi je trouvais que parfois il était bien sur le point. Je l'ai souvent cité, sa critique sur Dracula versus Van Helsing, où il parlait de 5 love letters qui se jouent en même temps. Je trouve que la formule était était très bien trouvé, il représentait pas mal de choses qui se passent dans le jeu. Il y a des fois où je suis moins d'accord, évidemment, hein, parce qu'on n'est pas censé être d'accord sur une critique. Hein. C'est pas ce qui fait la qualité de la critique, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec. Hein. C'est pas parce qu'il dit du mal d'un jeu que on n'est pas d'accord avec sa critique. Voilà. Et c'est pas pour ça que c'est une mauvaise critique. Donc il s'est essayé à ça. Comme dit, il a écrit un peu chez Ludovox. Il a aussi un peu écrit, je crois, chez Game Side Story ou quelque chose comme ça, ou Extra Life, je sais plus, il y a un certain temps. Et il y a autre chose qu'il faisait avant, c'était une chaîne YouTube qui est toujours consultable, qui est toujours pertinente, hein, pour la plupart des vidéos. C'est encore une fois un mec qui s'en fout un peu de l'actu, et donc ses vidéos vieillissent bien, puisque au-delà de la forme, ben le fond, lui, ben il est toujours là, hein. Il a fait une vidéo sur Friedman Freezer, il a fait une vidéo sur les secrets des jeux de société, c'est au top 10 à trouver des petits easter eggs, etc. Bref, il y a plein de choses intéressantes à aller voir sur sa chaîne, même si ça date un petit peu, il y a aucun souci pour les regarder aujourd'hui. Évidemment, ça prend un peu de temps, tout ça, la production de contenu. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de vidéo, parce que ben il se concentre sur le podcast, sur la production d'écrit, sur sa vie perso, sur la création de proto, sur que sais-je. Donc on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Donc voilà, et je crois qu'il retravaille sur une vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. Mais en attendant, vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne de toute façon et aller voir ses anciennes vidéos. On reste chez mes comparses de proxy jeux, même si elle en est partie en fin d'année dernière, en fin de saison dernière. C'est Paul Gara, évidemment, là aussi donc 100% copinage, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est une amie et que dont je suis très proche, donc voilà. Ayez les filtres que vous voulez. Donc Paul Gara qui est rentré chez proxy jeux un tout petit peu avant moi, ou à peu près au même moment, je sais plus, qui a fait beaucoup de formats là-bas, qui était très investi dans l'équipe et dans la production de podcasts, qui a participé à énormément d'émissions. Elle a animé les chroniques, elle a animé les pour et le contre, elle a participé à des dossiers, elle a participé et hébergé des hors-séries, elle a fait beaucoup d'interviews. Notamment aussi, elle faisait Joueur Né, fut un temps, c'était elle qui produisait principalement le contenu pour Joueur Né, avec Cyrus, donc la chronique qui était dédiée aux jeux enfants. Elle a aussi fait C'est l'histoire d'un jeu avec Hammer, notamment, où là, pour le coup, c'était aborder un jeu par son thème, mais pas comme on fait nous dans Autour du jeu, mais plus retracer un peu l'histoire du thème du jeu et... Alors des implications aussi par rapport au jeu, mais voilà, il y avait un côté un peu Stéphane Bern. Bon, c'est pas quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Stéphane Bern, mais disons que je le préfère à Laurent Deutsch. Donc voilà. Mais il y avait ce côté-là un petit peu où en binôme, de manière très écrite et très bien écrite, il retraçait un peu tout ça et c'était très bien. Et donc, plein de productions super cool et très motrices chez Proxy Jeux en termes d'organisation. Donc elle a arrêté l'année dernière et du coup elle s'est lancée en solo avec le point de Paul Gara. Alors elle fait aussi partie d'Analysis Paralysis dont j'ai parlé plus tôt avec Pénélope, Zéphiriel et Gauthier et Mathias, qui est l'animateur. Mais sinon elle s'est lancée en solo, donc elle a lancé son site / blog et également son podcast à elle. Faut savoir que chez Proxy Jeux, depuis quelque temps, on faisait moins d'interviews, et je pense que c'est un exercice qu'elle aime bien. Elle aimait bien le faire. Et du coup, elle fait notamment des interviews régulières de personnes du monde du jeu de société. Alors, c'est souvent, elle essaie d'aller chercher des gens qui sont pas tellement présents sur les autres canaux, donc voilà, pas forcément les gens les plus interviewés, même si c'est rarement des purs inconnus, hein. Mais par exemple elle a reçu Fred Serval de Homo Ludens, qui est une interview très intéressante, et même quand c'est des gens connus, par exemple récemment c'était Feilouti qu'elle a déjà interviewé deux fois avec Proxy Jeux, mais là il y avait un angle spécifique qui était pas juste on va retracer ton parcours, qui est quelque chose que moi je faisais souvent avec Playtime et qui un peu vieilli, je pense, aujourd'hui, en termes de format d'interview, de dire, t'as fait ci, t'as fait ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, gna gna gna. Là, sur l'interview de Feilouti, par exemple, c'était prendre 5 jeux qui l'ont influencé, qui l'ont marqué, et comment ça a pu parfois influencer son game design ou pas, mais en tout cas, c'était un angle intéressant. Donc, alors moi, je vous avoue que aujourd'hui, je fais plus trop d'interviews, moi, et c'est pas forcément le format dont je suis le plus friand, parce que, pour plein de raisons, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent en termes de discours et tout, et où c'est rarement très très intéressant de manière générale, je trouve, les interviews, j'apprends rarement des choses, quoi, si ce n'est que le parcours de la personne est de toute façon intéressante et que son point de vue est intéressant, mais c'est pas forcément le format que je préfère, donc là je les écoute pas toutes du tout chez Paul Gara, j'écoute vraiment quand c'est quelqu'un qui me rend curieux, par exemple Fred Serval, voilà, c'est quelqu'un que je consulte aussi, qui est francophone, hein, Fred, mais par contre, sa chaîne est anglophone, c'est pour ça que vous verrez pas Homo Ludens ici. S'il faisait des vidéos en français, j'en aurais évidemment parlé. Mais donc, dans son podcast, en fait, il y a plein de petits formats. Donc sur son site, elle a aussi retranscrit à l'écrit certaines de ses chroniques qu'elle a fait dans certains dossiers de proxy jeux et des C'est l'histoire d'un jeu. Du coup, en fait, elle a plein de formats dans son podcast. Donc il y a les interviews qui reviennent de manière régulière, mais il y a aussi avec des déchutes un truc qui parle de jeux de rôle. Elle a fait un truc sur les enquêtes avec Zephyriel récemment. Moi, je suis intervenu chez elle pour faire une rétrospective de 2023. Bientôt, il y aura une émission où on parle de jeux de pli avec un autre intervenant. Alors, je sais pas quand sortira cette vidéo et quand sortira l'émission, donc j'en dis pas plus. Donc voilà, il y a la volonté un peu de se diversifier. Il y a aussi des débriefs de festivals, puisque c'est des endroits où elle allait déjà quand elle était chez Proxy Jeux et qu'elle aimait bien organiser. Moi, c'est un des formats que je préfère, les débriefs, parce que bah c'est quelqu'un qui n'a pas non plus la langue dans sa poche, un peu comme Pénélope, qui n'hésite pas à dire les mots, à dire les termes et à dire du mal d'un jeu quand elle l'aime pas. Là aussi, on n'est pas d'accord du tout sur tous les jeux. Hein. Par exemple, elle a beaucoup aimé Sur les traces de Darwin, moi pas du tout. Y a des jeux que elle aime et que je n'aime pas, ou inversement. Mais en tout cas, elle a toujours des termes qui n'hésitent pas à... Enfin, ils sont pas là pour ménager, entre guillemets, les gens qui ont fait le jeu, ou pour ménager en tout cas le jeu. C'est-à-dire que si le jeu ne lui a pas plu, elle va le dire, elle va expliquer pourquoi, de manière en analysant les points qui ne m'ont pas plu, en les expliquant, en s'opposant aussi à cette idée de cible, et etc. Un peu comme le Pionfesseur, il y a cette idée aussi de s'opposer à une forme de marketing de la communication qu'on retrouve dans beaucoup de reviews, et où elle essaie de s'écarter de ça et pour parler plus de ressenti. Donc les débriefs de festival, souvent, c'est des retours sur des jeux, des retours assez courts. Elle participait aussi au jeu du mois et tout, donc c'est un exercice dans lequel elle est à l'aise, t'as joué à quoi aussi, et en général elle essaie d'avoir quelqu'un avec elle pour l'accompagner, et moi c'est un des formats que j'aime beaucoup, parce que en quelques minutes, elle le faisait déjà très bien aussi dans les débriefs de Proxy Jeux, hein, donc en quelques minutes, réussir à placer son ressenti de manière pertinente sur un jeu, elle le fait très bien, donc plein de formats différents. Je l'ai dit, elle participe aussi chez Pénélope à Archéolo Jeux. Je parlais de... Elle écrit aussi chez Plateau. Du côté de l'écrit, depuis le début de l'année scolaire, elle écrit chez Plateau des critiques. Donc c'est un autre format. Moi, je suis pas abonné à Plateau, donc j'ai pas tout lu. Mais c'est un tout autre format d'écrire des critiques que de donner son opinion et son avis à l'oral. C'est des compétences différentes, quand bien même le fond est le même, hein, en termes d'analyse et d'opinion, la manière de la formuler n'est pas la même. Et donc, j'ai pas fait un truc spécifique pour, mais j'ai enchaîné Pionfesseur et Paul Gara, donc je suis bien sûr obligé d'embrayer sur Coup Critique qu'ils ont lancé eux deux depuis la fin d'année dernière ou début 2023, là c'était peut-être début 2024, peut-être en janvier, où il y a cette volonté de parler d'un jeu qu'aucun des deux n'a aimé. Il y a eu Spellbook, il y a eu Elawa, il y a eu Earth, et de faire une critique exclusivement négative. C'est-à-dire que peut-être que dans chacun de ces jeux-là, il y a des points spécifiques qu'ils ou elles ont aimés, d'accord ? Mais leur avis global est mauvais, et donc ils expliquent pourquoi pour eux c'est un mauvais jeu. Et pourquoi c'est un jeu qu'ils n'ont pas apprécié. Et pour ça, il y a plein de raisons, et c'est en moins de 30 minutes. Parfois, c'est quand même un peu long, parce que forcément, sur des jeux pas intéressants, il n'y a pas des choses intéressantes à dire, parfois. Parfois, il y a des jeux pas intéressants, enfin, il y a des jeux nuls, mais très très intéressants à décortiquer, et sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Parfois, il y a des jeux, ils sont juste pas très intéressants, et du coup, le discours à produire dessus, malheureusement, on en fait vite le tour. Et souvent c'est les pires jeux, ou bien c'est des jeux qui fonctionnent, vous savez, les fameux jeux qui fonctionnent, mais voilà, où il n'y a pas grand chose à dire dessus, ce qui en dit déjà long. Donc il y a cette volonté là, je parlais de Pionfesseur qui parfois peut être un peu, on peut avoir l'impression d'une certaine gratuité dans ses punchlines. Là, le format podcast un peu plus long, justement, ça permet de se rendre compte qu'il se base quand même sur des arguments et qu'il évite... Alors il y a de la punchline, hein, mais il n'y a pas que ça, des arguments, et ils prennent le temps un peu de développer, il y a le côté aussi dialogue qui permet, alors c'est pas un débat, hein. il y a pas à dire « ah bah si, tu vois ça, moi je trouve que c'est mieux, etc. » Souvent ils sont d'accord, mais sauf que c'est des différences de point de vue, le dialogue permet d'enrichir un peu la discussion et l'approche sur le jeu, quand bien même c'est une approche négative. Et du coup, ben, il y a aussi quand même une volonté forte de se dire que beaucoup de médias ludiques ne disent que du bien des jeux, et où finalement il y a un côté où on dirait que tout est bien, et que tout est aussi bien, et que tout ce qui sort est merveilleux, alors qu'on n'en entend plus parler 3 mois après. Si c'était vraiment merveilleux, peut-être qu'il s'installerait un peu plus dans la durée. Ça veut pas dire que tout ce qui sort récemment est nul, loin de là. Pionfesseur, tout comme Paul Gara, aime beaucoup de jeux qui sortent récemment. Enfin, beaucoup. En tout cas, il y a certains jeux qui sortent récemment qu'il ou elle apprécie. Vous avez qu'à aller voir la rétrospective qu'on a faite 2023, il y a plein de jeux qu'elle a adoré, Paul Gara. Et Pionfesseur aussi a fait des jeux du mois sur des jeux récents et tout, chez Proxy Jeux. Juste, il y a ce côté où, ben, non, tout ce qui sort n'est pas bien, tout ce qui sort n'est pas génial, et ni même bon, en fait, ni même moyen, parfois c'est mauvais, et c'est pas parce que ça tourne et que c'est équilibré et que voilà, que c'est un bon jeu. En tout cas, c'est leur point de vue. Et donc, il y a cette volonté de s'opposer, en fait, de créer une espèce de contre-pouvoir au discours dominant qui est « Ah, je vais vous parler de ce jeu qui est trop bien, ah, et puis celui-là aussi, et puis toutes les semaines, chaque jeu est trop bien », et du coup, il y a une espèce de égalisation, j'aime pas dire nivellement parce que souvent c'est vu par le bas, mais en tout cas il y a une égalisation du discours qui fait que tout se vaut et que ben un Aelawa va valoir un Spellbook, va valoir un Earth, va valoir un Root, va valoir un Decrypto, va valoir aussi n'importe quel jeu, et qu'en fait des jeux qu'on peut considérer comme vraiment géniaux et qui vont s'installer et qui vont devenir des must-have personnels, et ben dans le discours vont être mis au même niveau que des jeux qu'on va avoir sûrement apprécié, je veux dire, peut-être que les gens sont honnêtes quand ils disent ça, c'est pas ça la question, mais qui reste très oubliable, qui n'apporte pas grand chose en termes de sensation. Donc il y a cette volonté de s'opposer à ça en proposant un discours de ben en fait ces jeux là sont mauvais, et de pas faire de la nuance parce que ben en fait de l'autre côté il y a pas de nuance non plus. Donc à un moment c'est une espèce d'équilibre qu'ils essaient de mettre en place, tout en étant honnêtes sur les jeux qu'ils ont pas aimés, hein. Ils le font pas gratuitement, c'est-à-dire ils vont pas défoncer un jeu qu'ils ont aimé pour le plaisir d'en dire du mal. C'est pas ça non plus l'optique. Donc voilà, évidemment ils se sont pris des trucs de bois vert quand ils ont parlé de certaines productions francophones, parce que les gens pensaient que vraiment c'était condescendant et que vraiment c'était méprisant et que vraiment c'était de la punchline. Je suis pas d'accord du tout avec ça, encore une fois. Je pense qu'il y a plein de bons arguments, etc., qui ont été dits, et que même quand il y a de la punchline, voilà, c'est rarement des attaques envers les humains qui ont fait les jeux, donc moi je vois pas le problème, et encore une fois, ça dérange des personnes qui vont râler là-dessus, mais qui, quand quelqu'un va dire qu'un film est vraiment nul à chier, et que vraiment, faut pas voir ça, et que c'est un gros navet, il va y avoir aucun souci. Par contre, je veux dire, dans un jeu de société où c'est leur pote, ça pose un problème apparemment. Voilà, avec plus de nuances hein, par ailleurs que dire c'est un gros navet. Donc voilà, coup critique, allez écouter, je trouve que la démarche est cool. On peut reprocher certaines choses sur la forme, moi je trouve que franchement ça... voilà, moi j'ai aimé Earth plutôt, ils en ont dit du mal, ben... Est-ce que j'ai été choqué? Non, et en plus je suis à peu près d'accord avec les critiques qu'ils ont, c'est juste qu'à la fin le ressenti final n'est pas le même. Ça invalide pas leurs critiques pour autant, et ça les rend pas d'odieux personnages. Bref, donc Pionfesseur, Paul Gara, coup critique, allez voir tout ça. Coup critique, c'est donc disponible sur vos applications de podcast. Allez, j'en parle un peu depuis le début de la vidéo, mais évidemment, je vous conseille d'aller voir ce que fait Proxy Jeux, donc un podcast dont je fais partie, dont en plus depuis le début de l'année, là, depuis cette saison, je suis le président. Là, c'est 100% copinage, il n'y a que des gens que j'apprécie dans l'équipe. Ce qui nous empêche pas d'avoir par ailleurs des divergences à plein de niveaux, voilà, que ce soit de niveau ludique ou pas, il y a eu plein de discussions, etc. en interne sur des trucs où on n'était pas d'accord, bref, peu importe, mais c'est quand même des gens dont je respecte l'opinion et tout, et dont je respecte le travail. Donc Proxy Jeux, c'est un podcast qui date maintenant d'il y a plus de d'il y a une quinzaine d'années, un peu moins, ouais, on est à la saison 14, et où avant d'être une équipe, on est environ une vingtaine, avant d'être une équipe comme ça, c'était Olivier et Jérémy qui ont lancé ça, donc deux personnes à Lyon, pendant plusieurs années, où ils avaient plein de formats différents, et depuis à peu près 2015-2016, ils ont petit à petit accueilli des chroniques en fait au sein de leurs épisodes, il y a notamment Dédé Chutes qui était là, il y avait Yannibus aussi, il y a eu aussi... Bref, plein de petits trucs où il y a eu comme ça des interventions ici et là de personnes externes à l'équipe. Et depuis 2015, 2016, 2017, c'est devenu une association vraiment où Olivier et Jérémy ont un peu lâché la barre. Et où c'est vraiment devenu un truc où une œuvre collective, moins incarnée, même si il y a eu toujours des personnes qui étaient un peu au centre d'une chronique. Et donc il y a ce format-là qui est les chroniques, qui représente bien la diversité d'approches qu'on a chez Proxy Jeux. parfois on nous la reproche, parce que bah, du coup c'est difficile de s'y retrouver tellement il y a de formats différents et où on se dit mais attends, qu'est-ce que c'est proxy jeu? Il y a des interviews, alors on en fait moins aujourd'hui, il y a des interviews à Cannes toujours en festival, mais sinon on fait moins d'interviews au format très long comme peuvent le faire aussi la radio des jeux, quand bien même c'est pas le même format, on avait nos spécificités, mais moi ça me manque pas, je vais pas vous mentir, mais voilà, on a différents émissions, donc il y a Sort ton grand jeu, il y a les jeux du mois où ça va plutôt être des coups de cœur, il y a les t'as joué à quoi où ça va plutôt être du ressenti assez rapide, il y a donc les chroniques qui représentent vraiment la diversité de l'équipe, puisque quand quelqu'un rejoint l'équipe, on lui demande de s'intégrer aux chroniques et de faire donc une proposition d'un angle original. Et honnêtement, c'est ce que je dis toujours, si aujourd'hui moi je devais rentrer dans le proxy jeu, j'aurais beaucoup plus de mal qu'à l'époque où on était beaucoup moins exigeant sur l'originalité. Ce qui n'empêche pas qu'on se renouvelle au sein même de l'équipe et que du coup, on arrive à proposer des choses originales. Mais ouais, aujourd'hui, pour venir chez Proxyjeux, faut un angle un peu spécifique et un peu précis. Et du coup, ça donne une diversité des contenus et des approches qui est vraiment la richesse de Proxyjeux. Et c'est pour ça que je vous invite à y aller. Hein. C'est pas parce que pour m'écouter moi là-bas, c'est parce qu'il y a plein d'autres gens qui font des choses très très intéressantes. Que ce soit le Sortons le Grand Jeu, dont j'ai déjà parlé avec Pionfesseur et Cyrus. Que ce soit dans les chroniques, bah, nous on fait Autour du Jeu avec Beno FX, où vraiment on parle d'œuvres autour d'un jeu. Donc on prend un jeu et puis que ce soit par ses mécaniques et notamment ses thématiques, on va parler d'œuvres culturelles, d'autres univers culturels autour de ce jeu-là. Y a Paul Garayhammer qui faisait donc C'est l'histoire d'un jeu, il y a Lana et Drew qui font Au plateau comme à la ville, qui pareil est un binôme très très écrit et qui fonctionne très bien. Ils ont aussi fait à un moment une chronique plutôt sur Kickstarter. Il y a Matt qui fait des trucs très très condensés. L'année dernière c'était Ludomaniac, là comment appelle-t-elle ça, la Minute Mad, où c'est entre, il y a un peu d'humour, il y a un peu une écriture très très ciselée. Dédé, il a fait des chansons, il a fait Ludo Parano qui était complètement fou, il y a Pionfesseur qui fait des analyses de game design, on avait Iso Bretny qui nous parlait de jeux disponibles à l'étranger, il y avait Hammer qui parlait de joueurs d'ailleurs, qui parlait de jeux autour du monde, on était aussi une équipe internationale, faut le savoir, de la France jusqu'au Japon en passant par l'Allemagne. Bref, il y a eu des chroniques Do It Yourself pendant certaines années, il y a eu des trucs sur le jeu de rôle, il y a Zephyriel qui parle de jeux solo, il y a Elodie qui parle d'illustration et du travail des illustrateurs et illustratrices, et toutes ces personnes participent à des émissions plus collectives, comme le Pour et le Contre, où on fait tourner les personnes, les jeux du mois, où là aussi on essaie de faire tourner des intervenants intervenantes. On manque de diversité là aussi dans l'équipe, hein. Je parlais du manque de diversité que j'ai moi dans mon prisme là par rapport à cette vidéo, c'est quelque chose qu'on regrette chaque année, que voilà, on soit quand même beaucoup des mecs blancs dans l'équipe, c'est toujours un peu dommage du point de vue de la diversité des points de vue, chaque année on espère que ça change. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, vous connaissez peut-être déjà Proxyjeux, j'en parle assez souvent. On fait aussi les dossiers où on essaie de régulièrement avoir des sujets qu'on essaie d'approfondir. Donc voilà, diversité de contenu, là aussi un lien, une transparence vis-à-vis des éditeurs au maximum. C'est une charte qu'on a et on refuse par exemple les boîtes, ce genre de trucs. Il y a cette volonté de pas être trop proche. Quand bien même certaines personnes sont plus ou moins proches personnellement, de professionnels. Donc voilà, Proxyjeux, plein de choses à aller picorer. Encore une fois, parfois difficile de s'y retrouver. N'hésitez pas à ne pas tout écouter, hein. C'est pas parce que vous êtes abonné au flux qu'il faut tout écouter. Prenez ce qui vous y intéresse. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très content de faire partie de cette équipe depuis des années et de la diversité de contenu qu'on y propose. On repart vers YouTube avec Punchboard. Donc Punchboard, c'est une chaîne qui a été montée par Ludema, qui avait avant une autre chaîne, donc Ludema slash Jérémy. Faut savoir que du coup Ludema, ce qu'il faisait sur sa chaîne, c'était, ça a pas mal évolué au cours du temps en fait. Il y a eu un moment où c'était surtout des avis, des présentations de jeux, etc. Mais les dernières vidéos de la chaîne le montrent. Il est allé vers quelque chose de plus analytique au niveau du secteur du jeu de société et des discussions avec d'autres personnes autour justement de ce secteur de ce loisir. Et donc il avait aussi, je crois, essayé de lancer un documentaire financé, etc., autour du jeu de société qui n'avait pas abouti. Mais il y avait déjà donc petit à petit cette réflexion de parler du monde du jeu de société de manière un peu différente, un peu approfondie, avec un peu des sources, etc. Et donc, il a lancé Punchboard. Il l'a séparé de l'UDMA parce que je crois, alors, il me contredira peut-être, mais qu'il voit vraiment Punchboard un peu comme un média, là où l'UDMA était une chaîne perso. Donc, c'est deux optiques différentes. Donc, il a souhaité faire la distinction entre les deux, ce qui, ma foi, pourquoi pas. Je pense que ça peut se comparer. Je crois qu'il l'a déjà fait à Origami, qui est une espèce de plateforme pour parler de jeux vidéo et pas que. Mais Punchboard serait une espèce de plateforme pour parler de jeux de société sous plusieurs formes. Et donc, depuis qu'il a lancé Punchboard, qui a un chouette nom déjà, bonne idée, donc c'est, il a un Patreon pour se financer, qui, ça reste assez roots au niveau des moyens, etc., que ce soit au niveau de l'overlay, il est aussi sur Twitch, je crois que c'est Punchboard le média ou quelque chose comme ça, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description, et donc, il y a une... En fait, c'est quand même un prolongement de ce qu'il commençait à faire sur l'UDMA sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a souvent des réflexions autour du monde du jeu de société, plus que des jeux en eux-mêmes. Alors je sais qu'il a l'envie aussi de faire des critiques, etc. En tout cas, ce que lui considère comme des critiques. Mais de réfléchir plus sur l'idée même de critique, plus que de parler du jeu, en fait. J'ai l'impression, en tout cas. Enfin, ça reste un joueur et tout. Et donc, au niveau du contenu qu'il produit, il y a des interviews. Par exemple, il a reçu Monsieur Guillaume, il a reçu Simon du Passe-Temps, Sébastien. Mais un peu comme je parlais de Paul Garat, qui a ses angles pour ses interviews et qui sont pas juste. Bah, parle-moi de ton parcours. Tiens, t'as joué à quoi dernièrement et comment tu t'es construit, à quoi tu jouais petit. Ok, une forme d'interview. En fait, je dis ça parce que moi, je faisais un peu ça quand je faisais Playtime à l'époque où je faisais des interviews. Là, non, il y a quand même des interviews qui préparent pas mal et qui choisit d'angler volontairement sur certains sujets spécifiques et donc d'amener sur certains qui permettent en fait d'approfondir la connaissance du monde du jeu de société à travers le prisme de l'invité, et que c'est un moyen pour lui en fait de parler du monde du jeu de société avec un autre intervenant ou une autre intervenante. Et du coup, donc il y a ces interviews là. Il y a aussi pas mal de travail analytique autour de bah à quoi ressemble le YouTube ludique. Pas mal aussi d'intérêt porté à tout ce qui est les données, les chiffres sur lesquels il va s'appuyer pour développer un discours et pour développer ses vidéos. Alors c'est des vidéos assez longues hein, en général, vous n'êtes pas obligé de tout écouter, ou écoutez-les en x2, ou bien je sais pas, en plusieurs fois, hein, c'est possible aussi. Je sais que ça a été demandé plusieurs fois qu'ils le mettent en podcast, c'est quelque chose qu'il fera peut-être plus tard, parce que c'est vrai que pour la facilité d'écoute, c'est peut-être plus simple que de mettre pause sur une vidéo YouTube de 3 heures ou de laisser tout le temps son portable allumé, sauf si vous avez YouTube Premium, mais voilà. Et donc ouais, il a ça, il a aussi plus des discussions un peu à bâton rompu, notamment avec Crash Test Meeple, où il discute pas mal de plein de choses et où là ça digresse à fond les ballons, voilà, donc c'est un peu moins cadré que les interviews. Il y a aussi eu, il avait reçu Paul Garret et Pionfesseur pour parler de coups critiques et de la réception de coups critiques, ça c'était un retour un peu d'expérience, c'était aussi assez intéressant de ce point de vue là, ce qui en plus permettait d'ouvrir à la discussion sur ce qu'est la critique de jeux de société et comment elle est reçue aujourd'hui. Et également du coup, suite aux commentaires qu'il a reçus, qu'ont reçu la vidéo en fait, suite à la réception de la vidéo en elle-même, il a fait un truc qu'on voit pas trop souvent dans le milieu du jeu de société, c'est du react un petit peu, où il s'est servi de ça en fait pour rebondir en fait sur bah pourquoi est-ce que cette vidéo a autant marché alors que lui il pensait pas que ça marcherait autant, et pourquoi ça a généré autant de discussions. Donc c'est pas du react genre oh comme quand on écoute un album ou quand on regarde des vidéos et où il y a vraiment ce côté oh, voilà et tout incroyable. Non, c'est plus se baser sur un truc pour rebondir sur du contenu qu'il a produit précédemment et de voir comment est-ce qu'il peut l'analyser. Donc il y a plein de vidéos comme ça intéressantes que vous pouvez aller voir sur justement la connivence entre les médias ludiques et le secteur. Il réfléchit aussi depuis assez longtemps déjà sous sa chaîne Ludema à la relation entre influenceurs et professionnels et rapport aussi à la loi et la différence entre des personnes qui font de l'influence dans le milieu du jeu de société et les personnes qui font de l'influence dans d'autres milieux et comment est-ce que certaines lois sont plus ou moins respectées selon les milieux. Donc voilà, plein de choses intéressantes chez Punchboard qui commencent petit à petit à grossir, donc c'est cool parce que c'est vraiment un discours. Alors c'est vraiment si vous vous intéressez au milieu du jeu de société plus qu'au jeu en eux-mêmes, je pense, mais pour moi ça va avec, c'est du contenu qui en général m'intéresse. Récemment il a fait un truc sur les jeux solo avec deux personnes qui étaient concernées hein, directement, qui produisent pas mal de contenu sur ce type de jeu. Donc voilà, Punchboard, allez voir aussi les vidéos de l'UDMA si ça vous intéresse, hein. Il y a certains trucs qui sont assez proches de ce que fait aujourd'hui Punchboard, même si le format n'est pas le même et que la volonté éditoriale derrière n'est pas la même. Il y a une vraie volonté éditoriale en fait chez Punchboard, c'est ça que je retiens. Donc Voilà, allez voir Punchboard. Allez, l'avant-dernier, c'est Rue du Jeu, on reste sur YouTube, avec là aussi une chaîne qui grandit petit à petit, donc c'est principalement aujourd'hui, alors je sais plus comment ça s'appelait avant, il y avait un autre nom, je regardais peu en fait avant, et je regarde plus depuis que ça s'appelle Rue du Jeu, donc c'est Boris qui anime ça surtout, même si je crois que c'est Benjamin qui animait un peu plus sous l'ancien nom et qui devrait revenir, il a dit, donc Rue du Jeu, c'est animé par Boris qui par ailleurs est chercheur et tout, et a produit plein de contenus intéressants du côté du jeu vidéo, etc. Là il parle de jeux de société. Donc là aussi au niveau de la qualité d'image, etc., on se rapproche soit de ce que je fais moi, soit de ce que je disais pour Alice, soit de ce que fait Ludema, etc. C'est-à-dire que c'est pas la qualité du passe-temps en termes de qualité du matériel, etc. Même s'il essaye évidemment petit à petit de s'améliorer et tout. Honnêtement, moi ça me dérange pas plus que ça, vous savez que la qualité d'image et tout, je m'en fous un peu si le fond est intéressant. Et donc Rue du Jeu, il fait plein de formats différents, plus ou moins racoleurs, c'est-à-dire qu'il va faire des formats, ils ont fait leur top 50 all time je crois avec justement Benjamin, il fait des tops, des machins, mais il fait aussi des formats qui sont un peu plus éditorialisés, même si son avis à lui-même sur les jeux, il y a une forme d'édito évidemment, et de personnalité et d'identité, mais je retiens vraiment plus, par exemple il a fait des rétrospectives sur certains auteurs, je crois que c'est que des auteurs pour l'instant, sur Pfister ou sur Luciani par exemple, sur un éditeur, sur les jeux Istari par exemple aussi, je me demande si c'est pas la première fois qu'il a, la première rétrospective qu'il avait fait. Il fonctionne sous Ko-fi lui au niveau du financement, et donc c'est des rétrospectives qui peuvent durer pas mal d'heures, et où, ben, au-delà de son expérience personnelle, il n'hésite pas à avoir des invités qui sont pertinents ou pertinentes, et qui vont l'accompagner sur un segment pour parler de tel ou tel jeu, pour un peu, justement, revenir un peu sur le travail. Ça peut un peu s'apparenter sur ton grand jeu, sauf que c'est pas forcément sur des grands jeux, ni sur des jeux anciens, c'est plus, il y a le côté un peu, regard un peu assez francophone sur l'autorat et sur la place de l'auteur dans la création. Donc il y a ces vidéos-là qui sont intéressantes, et se fait aussi des challenges, qui parfois sont un peu idiots mais rigolos. Il a parlé par exemple pour les 1 an de la chaîne de 365 jeux en 2 vidéos, donc ça dure presque 3 heures, mais 2h30, mais pour 365 jeux c'est pas beaucoup. Je sais plus, il a fait genre 20 jeux en 20 minutes ou des trucs comme ça, ou bien le top 50, ils avaient une minute pour parler chacun de leurs jeux. Voilà, il y a des espèces de trucs sur la forme qui sont assez rigolos. Et voilà, il utilise aussi des miniatures. J'ai l'impression qu'il essaye de se mettre sur... Alors, je sais pas si c'est vraiment ironique ou pas, ou si c'est premier degré. Des miniatures qui sont très dans le YouTube style, avec des espèces de react comme ça et tout. C'est pas ce que je préfère, je vous avoue. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien que les... Parce que Punchboard, dont je parlais juste avant, utilise beaucoup l'IA, lui, pour ses miniatures. Boris, lui, joue beaucoup là-dessus, sur ses codes de YouTube. Je sais pas si c'est de manière ironique et un peu postmoderne, ou si c'est... juste parce que il essaye de faire plus de vues et que du coup il essaye d'utiliser des miniatures qui peuvent potentiellement mieux rentrer dans les algorithmes. Donc voilà, tout ne m'intéresse pas chez lui, notamment quand il a fait un nouveau format du neuf versus du vieux, je crois, où il a parlé de Age of Galaxy, il l'a comparé avec En route vers les Indes, alors qu'il n'est pas si vieux que ça non plus, mais et ça représente bien, j'ai l'impression, aussi une forme de relation qu'il a à la communauté et à la au succès de la chaîne. C'est-à-dire que souvent, il y a le discours que moi je partage pas du tout, que je produis pas du tout, de « dites-moi ce que vous aimeriez », et qu'il est très attentif, j'ai l'impression, aux vues, et qu'il y a une vraie déception quand des trucs font pas des vues, ce qui est pas trop mon cas, en tout cas je le verbalise pas comme ça. J'ai l'impression que lui est très sensible à ça, et que par exemple, là, du neuf avec du vieux, ça vient de « toi en fait, tes atouts, c'est que t'as une culture ludique que n'ont pas beaucoup de personnes qui produisent du contenu sur des nouveautés, tu as un peu comme un professeur ou quoi, un bagage qui fait que y a plein de jeux vieux que tu connais et que tu peux comparer et utiliser et que tu n'utilises pas, alors qu'en fait c'est pas si fréquent sur le YouTube francophone où les gens parlent des nouveautés et tout. Donc il y a ce côté où la communauté lui dit on n'attend pas de toi que tu fasses la même chose que les autres, on n'attend pas de toi que tu nous parles de, je sais pas, Faraway, Pixies, etc. Utilise plutôt tes spécificités. Et j'ai l'impression qu'il est très attentif comme ça à... Il fait aussi souvent des sondages et tout dans la partie communauté de YouTube. Qu'il est très à l'écoute des envies de cette communauté et de comment une vidéo va marcher sur la manière dont ça peut influencer le contenu éditorial. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Enfin, c'est en tout cas son choix. Je sais que ça l'empêche pas après d'avoir sa personnalité et tout, mais que se soumettre comme ça au nombre, moi, c'est pas forcément au nombre de vues ou quoi. C'est pas forcément quelque chose que j'ai tendance à faire parce que bah ça force entre guillemets une forme d'uniformisation. Ce qui marche sur YouTube, bah ça va être un truc qui va marcher auprès de plus de monde et qui va pas forcément avoir le plus d'identité. Mais ça l'empêche pas, lui, pour le coup, je parlais du passe-temps qui expérimente. Il essaye plein de trucs. Il y a des trucs qui prennent, il y a des trucs qui prennent pas, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais en tout cas, il a l'audace d'essayer, donc voilà. Allez piocher un peu, je parle des proxy jeux, allez picorer chez Rue du Jeu et vous trouverez bien un des formats qui vous intéresse. Et enfin, on va finir avec Chanouillette. Chanouillette, c'est la rédac chef de Ludovox. Donc je vous parle pas du Ludovox, hein, parce que je vous avoue que la plupart des contenus ne m'intéressent pas et qu'il y a beaucoup d'informatifs, quoi, enfin juste des infos. Ils font dans le viseur où ils reviennent sur des jeux, mais là aussi la proximité avec le milieu professionnel est très forte, puisqu'ils font les ludochronos qui sont tous rémunérés, etc. Donc moi c'est pas forcément une chaîne YouTube, alors je la consulte par intérêt pour voir ce que va être un jeu, mais c'est pas du contenu que je juge très identifié, c'est du contenu très installé, mais je trouve que ça manque d'identité, etc. Bon, peu importe. Par contre, Chanouillette, donc, elle a je parlais de la cariatre qui pour moi est la personne qui voilà, est la plus intéressante à lire sur le monde francophone du jeu de société. Chanouillette en fait aussi partie. Alors elle écrit moins qu'à une époque, mais je retiens toujours et c'est toujours super intéressant à les lire des années après, les éditos de Chanouillette sur Ludovox, qui sont à la fois des sujets intéressants, là aussi bien écrits, qui ouvrent des portes, qui ouvrent aussi des fenêtres, qui en tout cas, ouais, ça permet de ouvrir le regard sur des trucs auxquels on n'aurait pas forcément pensé, ou en tout cas avec un angle spécifique, et pour moi, ça fait partie des meilleurs contenus écrits sur Ludovox. Je suis beaucoup moins fan des let's play, enfin des just play, ou des tests qui pour moi sont vraiment des reviews un peu classiques et qui sont pas forcément ce que moi j'aime lire. Là récemment, alors je l'ai pas assez lu, mais il y a Gamt chez Ludovox qui fait aussi des papiers assez intéressants sur justement des jeux autour de wargame, etc. Un petit peu, donc des jeux un peu spécifiques où là c'est moins la façon d'écrire. Même si encore une fois j'ai pas lu plus que ça, donc si ça se trouve la façon d'écrire est très bien, mais que le contenu et l'originalité du contenu qui m'intéresse, le fait que c'est des jeux sur lesquels on lit ou on entend peu de choses, donc là c'est Gamme qui a écrit ça sur Ludovox. Chanouillette, donc c'est vraiment plus pour le travail éditorial, donc elle est rédac chef, et le fait d'aller chercher certains sujets et la manière de les mettre en forme. Donc voilà, c'est comme Acariade, j'aimerais qu'elle écrive plus, parce que ça fait partie des meilleurs trucs que je lis que sur Internet. Donc je lis assez peu, hein, finalement, de textes sur Internet autour du jeu de société, mais les éditeurs de Chanouillette, ça fait partie de ce que je préférais. Voilà, c'est fini pour ces 15 producteurs et productrices de contenu autour du jeu de société que je voulais vous conseiller, du fait de leur identité, du fait du contenu qu'ils produisent, la qualité du contenu ou l'originalité du contenu ou l'originalité de la forme. Vous l'avez vu, mais il y a des gens plus ou moins connus. J'espère au moins qu'il y en a une ou deux personnes que vous connaissiez pas et que peut-être ça va vous rendre curieux. Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de copinage, beaucoup de gens que je respecte beaucoup. J'espère que, voilà, vous mettez les fils que vous voulez là-dessus. Pour moi, si je suis devenu ami avec ces personnes-là, c'est parce qu'on partageait une certaine vision sur ce qu'on aime lire ou produire comme contenu du côté du jeu de société. Donc, encore une fois, merci à vous qui avez regardé la vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, il y a l'espace commentaire pour parler de chaînes que vous connaissez, que j'ai pas cité, peut-être que je les ai volontairement pas cités, peut-être pas. N'hésitez pas en tout cas à me recommander des chaînes YouTube francophones. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez pensé de la vidéo et puis à recommander à d'autres personnes, à répondre aux gens dans les commentaires si jamais quelqu'un cite une chaîne et que vous la découvrez, n'hésitez pas à dire merci, c'est cool. Également, vous pouvez lâcher des petits pouces et partager la vidéo. Comme je le disais en intro, il y a aussi le petit Buy Me a Coffee si vous avez trop d'argent et que vous savez pas quoi en faire. Donc voilà, une vidéo quand même assez longue. J'espère que vous avez pu, encore une fois, y trouver votre bonheur. On se retrouve prochainement dans un prochain format, sans doute un format plus traditionnel, que ce soit l'hebdo ou les découvertes du jeu de société. Prenez bien soin de vous. Ciao.
Doda, ie wa toreta ka?
Tada, zannen na koto ni. そのデータはこの場で消してもらう。いいね。
ちくしょう。
ただ代わりにいいネタを提供してやる。
え、本当ですか？
ああ、お題はこうだ。はた迷惑なガキがこれまでの行いを謝罪してみたってんだ。さあ始めろ。
そりゃいいや、伸びるよきっと。
そんなこれだけ危ない目にあって最後はこんなオチなんて、もう動画投稿はゴリゴリだ。